WEIUT 89.5 FM, the station that brings you the best Latin music, new and old, on Ultra Latino with DJ Chelly. CIUT 89.5 FM, the sound of your city.
The views and opinions expressed on the following program are those of the producers and or the persons appearing on the program and do not necessarily reflect the views and opinions of CIUT FM.
CIUT 89.5, Toronto.
Want to learn French? Parlez-vous français? Join us every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. on CIUT 89.5 FM or on the internet at CIUT.fm or live from our studio. Poco Richaud targets student listeners who want to explore and travel through the Francophone world. Each Sunday, our show includes French lessons, news, reports from across the continent, as well as international news flash about Africa, Europe, the Caribbean, and the Indian Ocean Islands. And features music charts and social issues around the world. Lively, upbeat, provocative, and on target. Popo Richaud, every Sunday from 11 a.m. to 1 p.m. In partnership with Radio France International, the French Studies Department, University of Toronto. Our email address, pot.purri@simpatico.ca.
Arrêtez la propagation de la COVID-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
Écoutez la planète chanter.
Rappelle à ton souvenir.
Ay, maman, voilà le voyage.
A travers la cosa, a travers la cosa, ding et dong.
Non, ding
et dong.
Écoutez la planète chanter.
RFI, la radio d'actualité internationale du groupe France Média Monde, diffusée en français et en 13 autres langues. 480 journalistes à Paris, 42 nationalités, 400 correspondants sur les 5 continents. Une présence mondiale sur 156 fréquences FM, en ondes moyennes, en ondes courtes, sur le câble, le satellite et via plus de 1400 radios partenaires. Plus de 40 millions d'auditeurs chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 17% en 4 ans. RFI, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 15 millions de visites sur RFI.fr, dont 40% en langues étrangères. Des offres thématiques sur l'Afrique, la musique ou encore sur les savoirs et l'apprentissage du français à partir de 20 langues étrangères. Une communauté de plus de 21 millions d'abonnés sur Twitter et Facebook qui font d'elle la première radio généraliste française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus nombreux à nous faire confiance. Merci.
Chaque dimanche, soyez de la fête avec RFI, Potpourri sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Chaque dimanche, je vous invite à écouter, participer à nos jeux concours. Votre magazine est avec vous depuis plus de 33 ans sur CUT 89,5 FM. Popourri Show, sur votre fréquence, tout au long de l'année. La radio, comme je l'aime. Madame, how would you like your baguette with butter or marmelade?
فيروس كورونا الجديد كان حاضرا بقوة في خطاب.
This virus still has the potential to erupt into a global pandemic.
De nouveaux cas de coronavirus repérés en Lituanie, aux Pays-Bas, en Nouvelle-Zélande et au Nigeria ces dernières heures. C'est la première manifestation de la maladie en Afrique subsaharienne. L'épidémie de coronavirus se répand. Près de 50 pays désormais sont touchés. Aucun continent n'est épargné. On parle de pandémie lorsqu'un nouveau virus grippal apparaît et se propage dans le monde entier. Si l'on s'en tient strictement à cette définition de l'Organisation mondiale de la santé, le Covid-19 ressemble de plus en plus à une pandémie. On verra avec nos invités s'ils sont d'accord avec cette définition. Une chose est sûre, la crise sanitaire désormais est mondiale. Qu'est-ce que cela implique? Quelle réponse lui apporter? Les premières mesures annoncées localement ou à plus grande échelle sont-elles à la hauteur? On va tenter de répondre à toutes ces questions jusqu'à 9h. Soyez les bienvenus.
Édition spéciale.
Tous confinés. Bienvenue à Popourri Show, une émission spéciale en mode virtuel animée par Eric Adair en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Montage, mixage, DJ Devera dans un studio de fortune. Bonjour chers amis et j'espère que vous avez passé une très bonne semaine et que le moral est au beau fixe. Merci pour vos nombreux messages, vos textes, vos réactions, vos confidences et vos poésies. Quelqu'un m'a même dit, et je cite, ce temps de confinement est très très lourd, ça pèse lourd sur moi et je vous écoute chaque dimanche et cela me fait plaisir de réagir à votre émission. Pour moi, c'est une vraie thérapie. Merci à Peggy Lampotam, autrice, blogueuse dans la région de Toronto qui nous écoute régulièrement. Je vous invite à suivre le lien de son blog avec un très très beau poème sur ce temps difficile qu'on traverse. Allez sur notre site popourishow.com pour avoir accès au lien de son blog. Merci à Darna Storou, Jean-Jules Benoît et beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de la région de Toronto, mais aussi en Europe, à Montréal. Et je vous rappelle que Darna et Jean-Jules Benoît sont tous deux enseignants dans la région de Toronto. Salutations chaleureuses à Percy Iptong, producteur, traducteur, correspondant de Popourri Show à l'île Maurice, qui va nous envoyer peut-être un message ce dimanche 26 avril, ou peut-être à la semaine prochaine. Eh oui, Covid-19, tous confinés, les dernières nouvelles d'ici et d'ailleurs à ne pas rater tout au long de l'émission. Et pour alléger la solitude et certaines réalités difficiles d'un bon nombre d'auditeurs, notre partenaire Yann la thérapeute nous livre une nouvelle chronique. Elle nous donnera des petits conseils pour surmonter le confinement. Le monde du travail et de l'éducation sont chamboulés, les étudiants sont angoissés, inquiets de leur avenir. Plus près de nous, en Ontario, l'Université de l'Ontario français a annoncé la semaine dernière la nomination d'André Roy comme nouveau recteur. L'actuel doyen de la Faculté des arts et des sciences de l'Université Concordia à Montréal entrera en fonction le 1er août prochain. L'émission Appel sur l'actualité de Radio France Internationale lance la question suivante. Université en Afrique, craignez-vous une année blanche? Quel impact a chez les personnes âgées? On en parle justement dans la deuxième heure. Et une retraitée de Lausanne nous décrit son quotidien depuis l'apparition du coronavirus en Suisse. Et oui, elle nous appellera en direct de la Suisse pour alléger la crise, les idées originales, des chansons, des liens pour voir des films gratuits tout en restant chez soi. Bien sûr, il y aura beaucoup d'humour, c'est garanti. Le coronavirus, c'est le plus grand défi depuis la Deuxième Guerre mondiale, selon Angela Merkel. Comme vous le savez, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni, la France ont été durement touchés. Emmanuel Macron cherche des réponses de la Chine. Pour sa part, Angela Merkel, la chancelière allemande, accuse carrément la Chine. L'Allemagne va mieux et reste solidaire de la France. Plus de 130 malades français sont passés par les hôpitaux allemands pour soulager les patients. Et tous les frais sont pris en charge par l'Allemagne. Très intéressant. C'est l'hécatombe aux États-Unis avec près de 50 000 morts. En Allemagne, la situation est sous contrôle, nous dit-on. Beaucoup de pays européens et même les États-Unis s'intéressent au modèle, aux résultats et à l'efficacité du système de santé allemande. Quelles sont les autres raisons pouvant expliquer le succès de ce pays? Et oui, ce pays, comme vous le savez, qui lutte, qui aussi a dû lutter face à l'épidémie. Devons-nous nous en inspirer davantage de l'Allemagne? Quand les frontières européennes pourront-elles s'ouvrir à nouveau? On en fait le point avec le magazine de France 24 et TV5 Monde. Je vous donne rendez-vous juste après.
Bonsoir à toutes et à tous. L'Allemagne déclare l'épidémie sous contrôle. Dès lundi, les commerces rouvriront en Allemagne, puis dans deux semaines suivront les écoles. L'Allemagne, le pays le plus peuplé d'Europe, peut se féliciter d'un nombre de victimes plus de 4 fois inférieur à celui de la France. Pourquoi et comment les Allemands ont-ils réussi à dompter cette épidémie ultra-contagieuse? Pourquoi et comment les Allemands disposent-ils de masques, de ventilateurs, de 2 fois plus de lits de réanimation par habitant que la France? En creux, c'est bien sûr un coup dur pour nous, Français, pour notre orgueil, pour notre système de soins qu'on croyait le meilleur du monde, mais aussi pour le fameux couple franco-allemand avec une Allemagne qui enchaîne les succès sur le plan économique, budgétaire et maintenant sanitaire. C'est pourquoi nous avons décidé d'intituler cette émission ce soir « Allemagne, pourquoi sont-ils meilleurs ?» Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Hélène Millard-Delacroix. Vous êtes professeure d'histoire et de civilisation de l'Allemagne contemporaine à la Sorbonne. Je rappelle ce soir votre biographie sur Willy Brandt chez Fayard. Léo Klim, vous êtes journaliste allemand, correspondant à Paris pour le quotidien Süddeutsche Zeitung. En visioconférence, Hélène Kohl, vous êtes correspondante à Berlin pour Europe 1. Vous êtes en Allemagne depuis 2003. Et puis enfin, Nicolas Bouzou, économiste, directeur, fondateur du cabinet Asterès, à paraître mardi. La mondialisation de demain, c'est aux éditions de l'Observatoire. Léo Klim, je commence avec vous. Après cette petite introduction où on explique que vous êtes les meilleurs, est-ce que ce n'est pas un peu gênant de s'entendre dire qu'on est toujours les premiers de la classe, dans toutes les matières maintenant, même sur le plan sanitaire?
Oui, bien sûr, c'est gênant. Moi-même, je suis un peu surpris que l'écart avec d'autres grands pays européens soit aussi flagrant dans cette crise. Donc oui, bien sûr, on préfère pas trop parce que c'est pas une situation très agréable d'être parce qu'on est envié et puis ça on agace hein, ça on agace les autres quand c'est toujours le même qui est meilleur. Après, il faut dire que je crois qu'il y a une conjonction de facteurs
On va revenir sur les raisons, mais c'est juste sur votre ressenti. Et à l'inverse, est-ce que votre famille en Allemagne s'inquiète de ce que vous êtes à Paris, où on, j'imagine, on voit à la télé allemande des hôpitaux surchargés, etc.
Ils s'inquiètent. Moi, je leur dis que je suis en bonne santé. Mais je leur dis aussi, c'est vrai, et ça, c'est le côté un peu de la fierté, c'est vrai que je leur dis au téléphone, soyez heureux de vivre dans un pays si bien géré.
Alors, Hélène Kohl, vous, c'est la situation totalement inversée. Vous êtes française en Allemagne. Alors, à Berlin, est-ce que vous ressentez cette fierté des Allemands qui ont réussi à dompter cette épidémie que personne n'est arrivé à dompter? Est-ce qu'il y a une fierté? Mais, comme le disait Léo Klim, on ne veut pas trop le montrer parce qu'on ne veut pas agacer comme le premier de la classe qui ne veut pas frimer avec ses bonnes notes, quoi.
Alors attention, le ministre de la Santé a dit que cette épidémie était effectivement sous contrôle. Ça ne veut pas dire qu'elle a disparu. Il a même dit que ce n'est que le début de la pandémie. Mais on a l'espoir de pouvoir faire face à cette maladie sur la durée, parce qu'effectivement ici, en tout cas à l'heure où on se parle, à l'instant T, on a effectivement l'impression que le système sanitaire allemand a réussi à maîtriser cette épidémie, à réussir à faire qu'on peut apporter une réponse qui est satisfaisante, et on le voit quand on voit le nombre de morts qui est autour de 4000 seulement aujourd'hui. Donc à l'instant T, il y a effectivement cette fierté, mais il y a aussi beaucoup d'incertitudes parce qu'on va commencer le déconfinement, on va commencer à assouplir les mesures. Les gens sortent ici dans Berlin. Déjà, dès aujourd'hui, on a pu constater que beaucoup de gens étaient sortis. Et effectivement, il y a cette incertitude. Est-ce que ça va, dans la durée, être encore un deuxième... Madame Merkel a dit que c'est un succès d'étape. Est-ce que la seconde étape sera aussi bien gérer, c'est la grande question.
Nicolas Bouzou, on se souvient que l'OMS, alors c'était des temps anciens, mais avait expliqué que le système de soins français était le meilleur du monde. Et on a cette idée d'ailleurs que les étrangers viennent se faire soigner en France parce que notre système de soins est excellent. On se rend compte qu'il y a mieux que nous. C'est les Allemands, et c'est même Angela Merkel qui l'a dit, je cite la chancelière, « Nous avons peut-être le meilleur système de santé au monde ». C'est une découverte pour nous et un peu une claque. Hein.
Oui, alors, juste au préalable quand même, un tout petit point de prudence, parce que le professeur Delfrécy, par exemple, qui dirige le conseil scientifique auprès du président de la République, expliquait dans les Échos il y a quelques jours que si en France on n'avait pas eu le cluster de Mulhouse, par exemple, on aurait des statistiques qui seraient pas très éloignées des statistiques allemandes. Et donc, je suis pas médecin, mais je suis quand même un homme de chiffres et de statistiques, et je sais très bien que les biais statistiques peuvent expliquer des choses importantes. Cela dit, moi je suis un peu surpris, très honnêtement, parce que déjà quand je regarde la structure démographique de l'Allemagne, en réalité l'Allemagne devrait être plus touchée que la France, parce que l'âge moyen de la population allemande est un petit peu plus élevé que l'âge moyen de la population française. Et puis on aurait pu penser que à partir du moment où on a un système de santé relativement décentralisé, on rentrera je pense dans les détails tout à l'heure pour expliquer un petit peu comment ça se passe, mais évidemment on n'a pas du tout le même type d'organisation qu'en France, on a un système qui est plus hétérogène puisque les Länder ont une capacité en matière d'application de la politique de santé allemande qui leur laisse beaucoup plus de marge de manœuvre que la France. On aurait pu penser qu'il y aurait des inégalités au fond plus fortes qu'en France, or cela ne semble pas être le cas. Donc là, très clairement, il y a un succès du système de santé en Allemagne qui, d'ailleurs, commence à devenir aussi, je trouve, un succès en termes de soft power. C'est-à-dire qu'il se passe quelque chose en ce moment autour, entre guillemets, de la marque Allemagne, liée à ce succès sanitaire et liée aussi, on en reparlera, à cette même relative résistance de l'économie.
C'est-à-dire qu'elle a gagné en influence hein, avec ce succès vis-à-vis de l'épidémie, avec cette capacité à gérer cette épidémie. Hélène Maillard de la Croix, à la barre de l'Allemagne, on a la chancelière qui est une scientifique. Et est-ce que ça a joué ça? Est-ce que au fond, les Allemands sont des scientifiques et c'est peut-être pour ça qu'ils ont mieux appréhendé cette épidémie que nos hommes politiques qui sortent de l'ENA ont fait moins de science?
Alors c'est très difficile de généraliser, il y a d'excellents scientifiques en France, il y a d'excellents scientifiques dans les différents pays européens.
Je parle au gouvernement.
Alors le fait que la chancelière en effet soit elle-même physicienne, qu'elle ait une approche extrêmement froide, détachée des choses, dans ses discours, dans ses prises de position, elle a été à peu près le contraire de ce qu'a été le président de la République française, c'est-à-dire qu'elle a été extrêmement prudente, extrêmement modérée. D'ailleurs, le ministre fédéral de la Santé est lui-même aussi extrêmement prudent. Les Français, les Américains, les Anglais ont tous traduit le discours du ministre Spahn en disant « le virus est sous contrôle ». C'est pas vrai, c'est pas ça qu'il a dit. Il a dit « il est maîtrisable, beherrschbar ». Il est maîtrisable, c'est-à-dire nous avons les moyens, nous donnons les moyens de le maîtriser, mais nous ne sommes qu'à une étape. C'est important. C'est important, je crois, d'avoir cette conscience qu'en Allemagne, la science est en effet une valeur extrêmement forte. On investit énormément dans la recherche en Allemagne. Et, comment dire, il y a un vrai respect pour les scientifiques qui va même dans le fait qu'on donne les titres aux universitaires. On est professeur en Allemagne, pas seulement quand on est professeur de médecine, mais aussi quand on est reconnu comme ayant une compétence scientifique.
Donc Angela Merkel aussi bien, on l'appelle docteur ou je ne sais pas quel est son titre d'ailleurs.
De toute façon, docteur, quand elle parle au Bundestag en tant que chancelière et comme députée au départ, elle a le nom de docteur.
D'accord.
Et elle écoute beaucoup les scientifiques et pas seulement les médecins.
Oui, Léo Klim, vous vouliez ajouter quelque chose?
Oui, alors c'est vrai que le titre de scientifique universitaire est plus important en Allemagne.
Elle a un doctorat alors, de physique quantique.
Voilà. Oui, c'est ça. Mais bon, nous, par exemple, les médias, à la différence de l'Autriche, nous n'allons pas, nous, médias allemands, mentionner les titres. Mais ce que je veux rajouter, c'est que le fait d'être scientifique, ça aide Angela Merkel beaucoup dans sa communication maintenant. C'est-à-dire d'être crédible et elle arrive à expliquer des questions de statistiques assez simplement. Et donc ça explique aussi en partie sa grande popularité, c'est-à-dire qu'on peut lui faire confiance. C'est un facteur de confiance, qu'elle soit scientifique et un peu détachée justement.
Et c'est vrai que Nicolas Bouzou, en termes de communication en France, on a d'ailleurs des dirigeants qui ont beaucoup d'emphase. On se souvient du « nous sommes en guerre » d'Emmanuel Macron, qu'il avait répété 6 fois lors de son discours. Eh bien, à contrario, là, je cite le président de la République fédérale d'Allemagne, hein, Frank-Walter Steinmeier, qui dit « Non, ça n'est pas une guerre, c'est un test de notre humanité ». On a l'impression qu'il ramène cette épidémie à un test en laboratoire.
Oui, absolument, mais il faut bien voir que l'élite française, l'élite politique et l'élite économique, c'est une élite littéraire. Le président de la République est féru de philosophie, le Premier ministre est féru de littérature, le ministre de l'économie est féru de littérature. Et c'est vrai aussi des élites économiques, les dirigeants de grandes entreprises. Alors, sans vouloir faire de mauvais esprits, ils ne sont pas toujours des spécialistes de la littérature, mais en tout cas, aiment bien donner l'impression qu'ils le sont. En Allemagne, on a une élite qui est férue de technologie. Et c'est vrai aussi des dirigeants d'entreprise qui sont passionnés par la science. C'est d'ailleurs un point commun entre l'Allemagne et la Chine. En Chine, les dirigeants du Parti communiste chinois ont très souvent des diplômes scientifiques de très haut niveau.
Alors, la pandémie est donc sous contrôle, selon le ministre de la Santé allemand. Nos voisins ont, semble-t-il, réussi à maîtriser la propagation du Covid-19, à tel point que dès lundi, les magasins de moins de 800 m² pourront rouvrir leurs portes. Un début de déconfinement rendu possible grâce notamment à l'utilisation massive des tests de dépistage. Voyez ce sujet de Myriam Zéhar et Ilana Azinko.
La célèbre porte de Brandebourg à Berlin reste peu fréquentée. Comme partout en Europe, l'Allemagne applique des mesures de restriction. Mais depuis hier, l'espoir renaît. Face aux journalistes, le ministre de la Santé allemand l'affirme, la situation s'améliore nettement.
L'épidémie est redevenue gérable et sous contrôle aujourd'hui. Il y a un chiffre très important et encourageant. Depuis le 12 avril, le nombre de personnes qui se sont rétablies chaque jour est supérieur au nombre de personnes nouvellement infectées. À l'heure actuelle, nous avons plus de 80 000 guérisons sur les 130 000 personnes infectées jusqu'à présent.
Une épidémie sous contrôle, avec un taux d'infection à 0,7, ce qui signifie qu'un porteur de virus infecte désormais moins d'une personne. Le gouvernement annonce avoir reçu 80 millions de masques cette semaine. Progressivement, le pays assouplit donc ses mesures. Lundi prochain, les commerces de moins de 800 mètres carrés pourront rouvrir leurs portes. Tout comme les écoles, le 4 mai, pour les élèves qui doivent passer des examens. Les restaurants et grands événements devront eux encore patienter. Des annonces faites par la chancelière qui souhaite un déconfinement par étapes.
Toute l'évolution est basée sur l'hypothèse que le taux d'infection est gérable et que nous pouvons le surveiller, que nous avons plus de dispositifs de protection et grâce à eux, nous pouvons assouplir les restrictions. Comme nous l'avons dit, la situation est fragile. Nous sommes dans un contexte où la prudence est de mise et non la confiance excessive.
Angela Merkel veut rester prudente. Son pays enregistrait hier 4052 morts au total, bien moins qu'en France ou en Italie. Des chiffres qui répondent sans doute à la stratégie mise en place dans la République fédérale. Confinement rapide et tests à grande échelle. Ici à Munich, les scientifiques font même du porte-à-porte afin d'effectuer des prélèvements au hasard et faire avancer leurs recherches sur le virus.
Les personnes testées sont d'abord informées de la procédure et des études par nos équipes. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. S'ils sont d'accord, ils doivent répondre à quelques questions de base. Puis nous prenons environ 3 ml de sang qui seront testés pour les anticorps. Ils montrent si le système immunitaire est passé à l'action.
Au total, 1,7 million de tests auraient été pratiqués en Allemagne, qui mise également sur son nombre de lits pour endiguer l'épidémie. 28 000 en réanimation au début de la crise. En France, il y en avait 5 000. Un modèle allemand qui s'appuie sur une structure fédérale où chaque Länder applique ses propres règles, pas toujours faciles à accorder.
Il y a en permanence des conférences entre les chefs des Länder et en particulier deux hommes forts qui d'ailleurs sont aujourd'hui en première ligne pour l'éventuelle succession à Merkel, c'est le ministre-président de la Bavière, M. Söder, et le ministre-président de la Rhénanie-Westphalie, M. Laschet. Et ces deux personnes, avec la chancelière, ont finalement à trois géré cette crise.
Un fédéralisme qui oblige Angela Merkel à consulter chaque ministre-président.
Ce difficile équilibre ne semble pas affecter la popularité de la chancelière. Selon une enquête, elle bénéficie de 79% d'opinions favorables.
CIUT 89.5 Toronto.
Dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show et RFI. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires et culturels. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? 50 ans après sa création, comment se porte l'organisation de la francophonie internationale? Ici Eric Adair, je vous invite à Popourri Show, le magazine de la francophonie, l'émission phare sur CUT-FM, chaque dimanche de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de recherche en éducation franco-ontarienne de la Faculté d'éducation de l'Université de Toronto, le CREFO. Le département d'études langagières, campus de Mississauga, Université de Toronto. La chaire de recherche du Canada en études des minorités, l'Université de Waterloo. Les éditions prises de parole. EducNation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site web popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT FM, la radio comme je l'aime.
Madame, how would you like your baguette with butter or marmalade?
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Show. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Show et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
Allô?
Santé mentale et confinement ne font pas bon ménage. Plusieurs équipes de psychologues ont étudié les répercussions sur la santé mentale dues à des mesures de confinement décrétées à travers le monde. Quelles sont les conséquences de la pandémie sur la santé mentale? Quel est le moral des personnes les plus vulnérables, surtout les personnes âgées, les jeunes? Yann, notre partenaire, consultante et blogueuse en santé mentale, est avec nous pour répondre à ces questions. Elle est psychologue indépendante dans la région de Toronto et elle est aussi disponible en mode virtuel pour les internautes de la planète Terre. Elle offre des ateliers de psychothérapie, de counseling et de soutien psychologique auprès de différents publics, notamment les communautés immigrantes et les réfugiés. Vous pouvez visiter son site web noirepsy.org ou visiter notre site popourrishow.com.
Bonjour Yann, la thérapeute, et merci d'être des nôtres aujourd'hui.
Bonjour, merci à vous.
Le virus COVID-19 est l'une des causes de nos inquiétudes. Mais derrière le virus, il y a la difficulté de vivre ensemble. Après plus d'un mois de confinement, qu'observez-vous chez les personnes qui vous contactent?
Je dirais que les profils sont vraiment très variés. Je vais commencer par les personnes qui, avant le confinement, avaient déjà des problèmes de santé mentale. Si je prends l'exemple des personnes âgées, par exemple, qui avaient des maladies chroniques et qui étaient suivies chez le médecin, la plupart des questions aujourd'hui tournent autour de la continuité de la prise en charge. Donc, il y a un stress. Vu qu'on est confiné et qu'on ne peut pas rencontrer le médecin en face à face, la plupart des questions, c'est est-ce qu'on va continuer à me prendre en charge? Quand est-ce que ce virus va s'arrêter? Quand est-ce qu'on va trouver une solution? Donc, il y avait au départ une peur d'être contaminé, une peur de mourir. Et maintenant, c'est beaucoup plus une peur que ça s'éternise, qu'on reste à la maison et qu'on soit coupé en fait des autres. Ça, c'est au niveau des personnes âgées qui ont des problèmes de maladies chroniques. Je parlerai également des parents. Il y a beaucoup de parents qui sont obligés d'aller travailler malgré le confinement. Et chez ces parents-là, ce que moi j'observe, c'est la peur d'être contaminés et de contaminer les enfants à leur retour. Donc, ils sont tellement stressés, ils me disent « je sors pour aller travailler, si ce n'était que moi, ça irait. Mais si jamais je tombe malade et que je rentre chez moi et que je contamine mes enfants, je ne me le pardonnerai jamais. » Donc, il y a également cette peur d'être contaminé chez les parents. Il y a aussi les conflits familiaux, hein, parce qu'il faut dire que respecter les règles d'hygiène, il faut être parfois derrière les enfants, derrière les conjoints, la conjointe, pour rappeler les mesures de sécurité, les règles d'hygiène. Et ce n'est pas toujours tout le monde qui les suit.
Alors, vous conseillez quoi aux gens qui sont très angoissés, qui sont même déprimés? Comme on le sait, il y a beaucoup de gens qui se jettent dans des substances malheureusement toxiques, des fois, pour leur santé physique et mentale. Quelles sont les recommandations ou les petits conseils, les astuces que vous pourrez leur donner, surtout à des familles qui vivent des fois confinées dans un petit appartement où il y a très peu d'espace et de marge de manœuvre pour se distancer?
Il y a le problème de l'addiction aussi, il y a l'alimentation, on mange beaucoup, on mange énormément, on bouge moins. Donc ce qui se passe, c'est qu'avec le confinement, il y a beaucoup de plateformes, notamment YouTube, qui proposent des activités, des exercices physiques, de la relaxation, du yoga. Donc c'est important de définir une routine quand on se lève le matin, de planifier ce qu'on va faire dans la journée pour éviter l'ennui, mais aussi de faire des exercices virtuels. Faire aussi attention à ce qu'on mange. Il y a des conseils en diététique en ligne, gratuits. Donc, il y a tellement de plateformes qui sont proposées qui peuvent fournir ces services-là. Que ce que je pourrais dire, c'est d'aller sur cette plateforme-là et d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour améliorer la gestion du confinement. Notamment, je vais donner un nom. Je pense qu'en Ontario, on a Connect Ontario qui peut donner des ressources en fait aux personnes qui ont besoin. On a également 211 Ontario, qui oriente les personnes vers les services communautaires près de chez eux. Donc, ils peuvent appeler ces services-là qui pourront leur donner des informations sur tout ce qui est possible en ligne par rapport à tout ce qui est alimentation, nutrition, gestion des relations et aussi violence conjugale, hein, parce qu'on ne va pas oublier ce point qui est très important. En temps de confinement, être coincé avec son agresseur dans la maison, ce n'est vraiment pas évident. Donc, il ne faut pas hésiter à appeler les lignes de crise, les lignes d'information pour poser des questions, parler de son angoisse, parler de son stress. Il y a des professionnels qui sont là pour répondre aux questions, donner des bonnes réponses et orienter vers les bonnes ressources.
Et je rappelle aux gens que vous êtes rejoignable au 437-7758-767. Et je répète, 437-77-58-767. C'est bien ça?
C'est bien ça. Ils peuvent également me joindre via mon site web resilience.ca ou sur ma plateforme sur les réseaux sociaux Noir et Psy. Je réponds, je crois, environ après 10-15 minutes. Je suis assez réactive pour les orienter au sein de la communauté.
Alors, en tout cas, mesdames, messieurs, suivez les directives des autorités gouvernementales et nous, de notre part, nous continuerons à agir d'une façon responsable pour contribuer au bien-être de tous ceux et toutes celles qui sont autour de nous, tous les membres de votre famille et la communauté. C'est très, très important de suivre les directives du gouvernement en ce moment, peu importe la relation que vous avez avec votre communauté ou les membres de votre équipe. Santé mentale et confinement ne font pas bon ménage. La première chronique de Yann la thérapeute, notre partenaire, consultante et blogueuse en santé mentale. Elle est disponible sur noirepsy.org ou visitez notre site web tout au long de la journée, popourichaud.com. Merci infiniment Yann la thérapeute et à très bientôt.
Merci à vous, à bientôt.
Priorité santé, Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous et merci. Merci aux soignants, infirmières, médecins, aides-soignantes, biologistes. Merci et bravo à tous ceux qui prennent en charge. Merci encore aux employés des commerces et des transports, au personnel éducatif et à ceux des services de nettoyage, à toutes celles et ceux qui nous accompagnent en cette période de crise sanitaire. Merci d'être là. Et lorsque l'on donne la parole aux patients, ceux qui ont traversé l'épreuve du Covid-19 dans leur corps, parfois la douleur et la peur, eh bien la première chose qu'ils disent justement c'est merci, ce merci aux soignants. Écoutez les personnes guéries du coronavirus, c'est ce que l'on vous propose aujourd'hui. Écoutez, c'est donner corps et âme à cette maladie de l'isolement et de la quarantaine dont tout le monde parle tout le temps, mais que l'on voit peu alors que les autorités sanitaires nous l'expliquent. La grande majorité des personnes touchées par le virus, eh bien, guérissent. Mais dans certaines régions du monde encore, il manque un visage, il manque une matérialité à la maladie pour en percevoir la réalité du risque. Les hôpitaux gardent les portes fermées et pour cause. Et l'on perçoit le paradoxe permanent de ce virus émergent, l'immense majorité en guérit, mais sa contagiosité et la nouveauté qui l'entoure en font aussi un ennemi incertain, redoutable, comme en témoignent les soignants qui s'activent dans les services de réanimation, intubation, coma artificiel, immobilité. Et pour celles et ceux qui en reviennent, c'est ensuite le temps de la réadaptation, une convalescence exigeante pour se remettre debout et reprendre son souffle. Priorité santé, patient guéri du coronavirus, mettre des mots et un ressenti sur une maladie devenue pandémie, avec notre équipe à moitié confinée, radio à la maison et derrière la console dans les studios de RFI, toujours là, Didier Bleu avec aujourd'hui Youssef Boubaker, on leur adresse un coucou par écran vidéo interposé. Nous allons donc donner la parole à des patients et pour comprendre, pour expliquer des médecins, comme chaque jour dans notre émission. On vous retrouve, professeur Olivier Bouchaud, bonjour.
Bonjour, bonjour à tous.
Vous êtes responsable du service des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Avicenne de Bobigny en région parisienne. Coronavirus redoutable en raison de ses complications pulmonaires, notamment. Docteur Jésus Gonzalez, bonjour.
Bonjour, merci de m'accueillir.
Vous êtes pneumologue responsable de l'unité fonctionnelle SSR respiratoire à la Pitié-Salpêtrière à Paris, pneumologue également chercheur à l'INSERM. On va retrouver tout à l'heure en ligne Jérôme Boucontet, masseur kinésithérapeute dans l'unité de réhabilitation respiratoire, coordonnateur de crise de l'équipe de kinésithérapie à la Pitié-Salpêtrière lui aussi. Et puis patient hein, face au Covid, on entendra tout à l'heure Gérard Raymond, il préside France Assos Santé qui représente les patients et les usagers du système de santé en France.
Priorité santé sur RFI.
Professeur Olivier Bouchaud, parole de patient, parole de guéri. Une première question qui est simple, mais à première vue seulement. C'est quoi aujourd'hui, professeur Bouchaud, être guéri du Covid-19? Ça recouvre quelle réalité?
Alors, c'est une très bonne question, parce que être guéri, ça veut dire ne plus avoir les symptômes du coronavirus. Je pense que tout le monde est d'accord là-dessus. La question qui reste un petit peu en suspens, et notamment pour les personnes qui ont fait des formes graves et qui sont passées en réanimation, c'est est-ce qu'il peut persister à terme des séquelles au niveau du poumon? Pour le moment, c'est trop tôt pour le dire, ça n'est pas exclu, et il va falloir être très vigilant dans les mois qui viennent pour surveiller cette évolution sur le long terme.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui sort de réanimation, par exemple chez vous, dans votre hôpital, l'hôpital Avicenne, est-ce qu'il est désigné comme un guéri ou comme un convalescent et encore malade?
Alors, on a tendance à le désigner comme un guéri parce que je pense qu'il est important psychologiquement que les patients, qu'ils le sentent déjà dans leur corps, mais sachent que d'un point de vue médical, ils n'ont plus les symptômes et qu'ils peuvent reprendre une vie normale. Mais on leur explique qu'on va continuer à les suivre sur plusieurs mois pour voir comment les choses évoluent. Et ça, c'est particulièrement vrai, encore une fois, pour les personnes qui ont fait des formes graves et a fortiori celles qui sont passées en réanimation. Parce que s'il doit y avoir des séquelles, c'est vraisemblablement plutôt chez ces patients qu'on en observera. Je ne suis pas en train de dire qu'il y en aura forcément, mais c'est une possibilité. Je pense que le docteur Gonzalez tout à l'heure, qui a des compétences homologiques plus importantes que les miennes, le confirmera éventuellement. Il est important de faire ce suivi sur le long terme.
Un suivi sur le long terme, hein, parce que face à ce coronavirus, il faut accepter de dire il y a des choses qu'on ne sait pas encore, c'est trop nouveau, on n'a pas encore toute l'évolution. Docteur Jésus Gonzalez, justement, beaucoup de patients Covid-19 présentent ces fameux symptômes respiratoires. Qu'est-ce que vous observez justement sur l'impact sur les poumons?
Alors, je vais me permettre de commencer par dire, comme Olivier Bouchon, qu'on ne sait pas. Et ça peut être effectivement frustrant pour vos auditeurs et vous, journalistes, de tout le temps nous entendre dire « on ne sait pas », mais on va nous dire « mais qu'est-ce qu'ils sont mauvais ?»
Ah ben oui, Non, vous n'êtes pas mauvais.
Eh ben si, moi je le dis, pour l'instant, nous sommes mauvais sur cette maladie, car nous perdons nos repères, nous sommes en train, on apprend en marchant. C'est ça qui est important, que vous compreniez, et donc on va jamais vous donner des certitudes. Et ça c'est important, je ne me présente pas aujourd'hui comme expert de la maladie, parce qu'on est vraiment en train de découvrir des choses et c'est malade. Et là, ce que je vous aurais peut-être dit hier, ce matin, avec les malades que j'ai vus dans le service, où moi je vois les services qui sont passés, les patients qui sont partis par la réanimation, par la pneumologie, des longues semaines de coma et d'intubation, eh bien hier je vous aurais dit, bah tiens, j'ai l'impression qu'ils récupèrent tous, et aujourd'hui j'en ai vu un qui a de graves séquelles, et je ne sais pas ce que ça va devenir. Donc c'est vraiment ce que disait mon collègue d'Avicenne, on est en train de découvrir ce qui va se passer. Sauf qu'en plus, les pneumologues qui vont faire ces bilans, ils sont sur le terrain. Je sais par exemple que mes collègues d'Avicenne, ceux qui vont faire les examens plus tard en physiologie ou aux explorations fonctionnelles, ils sont sur le point instant sur le terrain aigu parce qu'on a dû accueillir ces malades. Donc, on a quand même de notre expérience des autres atteintes respiratoires graves, virales qu'on a eues tous les hivers chez peu de malades, mais qu'on a eues, on pense quand même qu'il va y avoir des séquelles. Et on a la surprise des fois, parce qu'il y a des sujets jeunes qui aient moins de séquelles. Donc vraiment, on est en train de découvrir la chose et on est prêt pour essayer de suivre ces malades. Il faut qu'on organise tout en même temps. C'est là la grande difficulté.
Alors on perçoit à la fois l'humilité, l'apprentissage. C'est pour ça que je disais que vous ne pouvez pas être mauvais, parce que quand on apprend et quand on est humble, forcément on peut pas être mauvais. Professeur Jésus Gonzalez, professeur Olivier Bouchot, on va échanger avec un premier témoin dans quelques instants, mais on va d'abord commencer par la parole d'un auditeur de République démocratique du Congo à Bukavu. Il est aussi soignant, il est infirmier, c'est Alexandre, et il porte une bonne nouvelle, deux guérisons dans cette ville de la province du Sud Kivu.
Nous sommes totalement satisfaits du grand résultat que l'autorité provinciale, son excellence monsieur le gouverneur des provinces, venait de communiquer à la population au niveau du Sud Kivu par rapport à la guérison de deux cas de malades à COVID-19 qui étaient confirmés depuis la date du 29 mars et qui ont été suivis dans le centre d'isolement et de traitement de la maladie à coronavirus. Nous devons aussi également dire merci à ces compatriotes qui étaient testés positifs à la pandémie parce que ils ont accepté, ils ont adhéré au traitement. Voici pourquoi ça donne des bons résultats. Nous devons aussi également dire merci à l'équipe gouvernementale, à l'équipe des ripostes qui a aussi donner son énergie pour suivre ces malades d'une manière efficace.
Alors l'adhésion des patients au traitement, c'est essentiel, hein, en particulier dans ces zones, cette zone où travaille Alexandre, qui est donc infirmier. Professeur Bouchot, c'est important d'en parler de ces personnes guéries pour sensibiliser le grand public. Dire qu'il y a guérison, ça veut dire aussi qu'il faut, quand on a des symptômes, aller vers un centre médical pour être pris en charge.
Alors c'est effectivement très, très important. Et dans toutes les situations de crise sanitaire, et je pense que toutes les personnes qui s'intéressent au continent africain sont actuellement très inquiètes sur l'évolution possible qu'il pourrait y avoir en Afrique compte tenu des limites dans les dispositifs sanitaires africains que l'on connaît également tous. On est très inquiet parce que si l'épidémie galope comme elle a galopé en Europe, on a vu qu'en France notamment, on a réussi à éviter la catastrophe parce qu'on a pu mobiliser des moyens et parce qu'on a quand même énormément de moyens, quoi qu'on puisse en penser. Et c'est certainement une réflexion qu'on pourra avoir dans un deuxième temps. Mais on a des moyens dans un pays riche comme le nôtre. Il est évident que ce que nous raconte notre collègue de Bukavu est émouvant parce que dans un endroit où le tissu sanitaire est très faible, je ne pense pas que ce soit ni insultant, ni...
Absolument pas, c'est une réalité, les gens le disent.
Et ça me touche d'autant plus que... Comme vous le savez, on a des liens avec l'hôpital de Panzi et l'hôpital du docteur Mukwege, que depuis le début de l'émergence de l'épidémie en Afrique, on est en lien avec eux pour essayer, dans la mesure du possible, de leur transmettre les informations et la petite expérience qu'on a pu développer. Évidemment, même si ça n'est que quelques personnes qui en sont guéries, c'est très émouvant de voir que on peut être infecté par le coronavirus et évidemment on peut s'en sortir et il faut marteler que malgré le nombre de formes graves et le nombre de décès, il faut marteler que l'immense majorité des patients qui sont infectés s'en sortent et guérissent.
Il ne faut pas avoir peur de se signaler quand on a des symptômes. Hein, ce n'est pas pour autant qu'on sera mis au banc de la société. Au contraire, on sera pris en charge, on sera soigné. Ça évite que la maladie se propage au sein de la famille. C'est essentiel de le dire. Alors, on va tout de suite donner la parole à celles et ceux qui sont passés par là, comme on dit. Hein, les personnes les plus exposées, on le sait, le personnel soignant. On vous retrouve. Nina, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes infirmière en hôpital de jour, en pédopsychiatrie. Vous allez donc nous raconter par où vous êtes passée, puisque maintenant vous êtes guérie. Quels ont été chez vous les premiers symptômes que vous avez ressentis?
Eh bien, le premier jour, j'ai eu une oppression, en fait, comme un stress. Je me suis dit, c'est le stress, tu es trop stressée. Une forte oppression au niveau thoracique, en fait. Ça a commencé par ça.
Est-ce que vous avez tout de suite pensé au Covid-19?
Pas du tout. Pour moi, j'ai vraiment mis ça sur le compte du stress par rapport au virus, en fait. Hein.
Et après, qu'est-ce qui vous a fait consulter et aller vers ce diagnostic?
Eh bien, en fait, au fur et à mesure des jours, les symptômes apparaissaient de plus en plus. Du coup, ce qui m'alertait à chaque fois un peu plus. Les sueurs froides le lendemain, les courbatures, les maux de tête. Et puis, la perte de l'odorat. Et là, je me suis dit, bon, il y a un moment, il y a beaucoup de symptômes réunis pour faire penser au Covid.
Et vous êtes adressée à qui à ce moment-là?
Eh bien, au 15, en fait. C'était un peu la procédure à suivre en tant que soignant. Je me suis dit, voilà, je suis en lien avec des enfants accueillis et puis mes collègues, il faut que je les protège. Donc, je me suis
mis le numéro du SAMU?
Avec le 15, oui.
Oui. Alors, après, du côté de la prise en charge et du traitement, ça s'est passé à distance? Comment ça s'est déroulé?
Oui. Alors, en fait, donc du coup, ils m'ont orientée vers un test. Donc, j'ai été testée en fin de semaine et j'ai eu un résultat très vite positif. Et en plus, après, du coup, j'ai eu un suivi par un infectiologue tous les jours suite à ce test positif. Donc, du coup, ils sont assurés de mes symptômes et de l'évolution de ceux-ci pendant environ 15 jours.
Alors, on sait bien que pour cette maladie, il y a les deux aspects. Il peut y avoir des douleurs qu'on ressent, ces douleurs thoraciques, hein, cette oppression que vous avez signalée. Également le ressenti, hein, on est en crise, on allume la télé, on allume la radio, c'est sur toutes les chaînes, ça martèle ces infos, y compris le nombre des décès, etc. Vous ressentez quoi quand vous avez le diagnostic?
Énormément de stress, de plus que j'ai deux enfants en bas âge à la maison, mon mari, et je me dis, ben mince, je les ai exposés, et je suis un petit peu angoissée, c'est sûr.
Du coup, vous êtes enfermée dans votre chambre, comment vous avez fait?
Oui, enfermée, j'ai passé beaucoup de temps déjà pour me reposer, hein, parce que c'est très très fatigant, et puis aussi pour les protéger au maximum, et après essayer de différer un petit peu les repas, du coup de pas prendre les repas à la même table ou de pas le prendre en même temps, des choses comme ça, bien désinfecter tous mes passages avec eux, mais c'est vrai que c'est très très difficile avec les enfants.
Alors de la fatigue, des symptômes assez douloureux,
mais on veut aussi donner un petit peu d'espoir à celles et ceux qui nous écoutent. À partir de quand vous avez senti l'embellie et vous vous sentez comment aujourd'hui?
Bah aujourd'hui, je me sens parfaitement bien, en forme, pleine d'énergie. J'ai repris le travail, donc tout va bien. Et puis, au bout de 15 jours déjà, j'ai senti une amélioration assez nette. Et puis après, au bout de 3 semaines, plus rien. Plus de symptômes du tout. Donc, les 2 semaines et demie, on va dire, plus de symptômes du tout. Et là, c'est très appréciable.
Donc là, ça va mieux, vous sentez guéri. Du coup, vous estimez que cette maladie, vous l'avez attrapée dans votre cadre professionnel. Est-ce que vous êtes retourné travailler aujourd'hui?
Oui, tout à fait.
Et ça se passe comment?
Ça se passe bien. Après, les mesures barrières sont les mêmes exactement que si je n'avais pas eu la maladie. Mais, ça se passe bien dans le sens où j'ai retrouvé vraiment une énergie.
Et le sourire.
En état normal et le sourire, oui.
Merci beaucoup Nina, merci pour ce témoignage. Professeur Jésus Gonzalez, vous prenez en charge en temps normal des patients touchés par des maladies respiratoires chroniques. Comment est-ce que ces patients s'en sortent aujourd'hui face au Covid-19?
Alors paradoxalement, et on a tous les mêmes remarques avec mes collègues européens, on se contacte tous et on s'est préparé ensemble, les Italiens, les Espagnols, les malades insuffisants respiratoires chroniques viennent peu à l'hôpital. En ce moment, il y a peut-être plusieurs raisons, mais j'ai des nouvelles par l'association des malades qui m'envoient des petits messages d'encouragement. Ils se prennent des nouvelles entre eux, ils vont plutôt bien. Et probablement que le confinement a fait que ils n'ont pas attrapé les virus habituels d'hiver, ils n'ont pas souffert de la pollution, etc. Donc heureusement, mais ils vont plutôt bien, ils consultent peu. Nos asthmatiques, les patients atteints de BPCO qui sont des patients qu'on a le plus dans le service, donc ils vont plutôt bien et c'est... Je dirais heureusement, car ça aurait dépassé nos capacités d'accueil à l'hôpital.
Et c'est dire aussi si les messages de prévention et tout ce qui concerne la distanciation sociale, c'est absolument essentiel.
Ah oui, et donc ça, nous, on essaye de l'enseigner à nos malades, à les convaincre, on a ce qu'on appelle de l'éducation thérapeutique, on leur apprend les gestes barrières, etc., depuis très longtemps, mais ça passe un petit peu par-dessus la tête, comme à nous tous depuis des années. Je pense qu'au moins, cette fois-ci, ça va bien changer les choses. Et tout le monde m'écrit en disant « je respecte les gestes barrières, je ne vois pas ma famille si je suis, ils sont malades, etc. etc. » Et c'est majeur, ça fait de nombreuses années qu'on le dit, là on a la preuve formelle, et moi je suis un convaincu sur le fait que ces malades vont plutôt bien, nos malades d'insuffisance respiratoire chronique, parce que ils sont restés à la maison et ils se sont protégés entre guillemets du monde extérieur qui parfois est hostile, notamment l'hiver.
Ils ont pris conscience des risques. On l'a dit pendant cette émission, on va faire la part belle aux paroles de patientes, de patients, surtout aux paroles de guéris. C'est votre cas, Daniel, bonjour.
Oui, bonjour.
Alors, un double témoignage pour vous sur votre situation et également celle de votre maman. Vous vivez dans l'est de la France, près de Mulhouse.
Oui.
À Mulhouse même, premier foyer.
Maman, c'est Mulhouse et moi juste à côté, voilà.
Je sais pas, Daniel, est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre téléphone parce que là, vous êtes un petit peu lointaine, la voix est un petit peu floue. Un des premiers foyers de l'épidémie, cette zone de Mulhouse. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos premiers symptômes?
Alors moi, j'ai commencé par avoir un état fébrile à la mi-mars avec très peu de fièvre, une petite toux et des petits maux de tête qui partaient et revenaient. Et puis, par la suite, un début de rhume qui s'est transformé plutôt en sinusite et une pression dans la poitrine. Donc je me suis dit, j'ai dû attraper le virus. Et j'ai commencé à me soigner de l'Doliprane. Puis, au bout de 5 jours, l'état étant stationnaire, j'étais rassurée, j'ai arrêté le Doliprane. Mais à partir de ce moment-là, j'ai perdu l'odorat et j'ai commencé à avoir des diarrhées.
Alors, ces deux symptômes qui ont été vraiment pointés, perte de l'odorat avec aussi des symptômes digestifs. Et puis, dans le même temps, il y a le cas de votre maman. Voilà. Alors, on le sait, il y avait des craintes particulières pour les personnes âgées. Votre maman, elle a 87 ans. On va dire que c'est une super mamie, on va le dire. Oui. Alors, comment ça s'est passé pour elle?
Eh bien, elle m'a téléphoné en me disant qu'elle avait des nausées, qu'elle se sentait pas très bien et des diarrhées. Donc, je lui ai dit que j'étais dans la même situation et je lui ai proposé d'essayer de se soigner d'abord elle-même. Mais malheureusement, dans la nuit, les diarrhées se sont aggravées. Elle s'est levée, elle a fait un malaise vagal. Et elle a essayé péniblement de regagner son lit en rampant et là, elle m'a appelée. Donc, quand je suis arrivée sur place, j'ai trouvé l'état de ma maman très difficile à voir. Elle était vraiment complètement HS, KO. Donc, j'ai appelé le 15. Et par chance, je suis tombée sur le médecin régulateur qui l'a fait monter. en me disant que c'était les symptômes du Covid-19. Mmh. Et donc, elle m'a dit, écoutez, on va la faire tester. Et effectivement, le lendemain matin, le médecin urgentiste m'a rappelé en me disant qu'elle avait bien été testée, mais que par chance, elle ne présentait pas de problèmes respiratoires, que c'était surtout donc digestif. Mm-hmm. Et n'ayant pas de place, parce que l'hôpital de Mulhouse était submergé, mm-hmm. n'ayant pas de place, m'a demandé si je voulais bien la prendre à la maison. Mm-hmm. Donc je lui ai décrit mes symptômes et elle m'a dit effectivement ce sont les symptômes du Covid que vous avez également. Mm-hmm. Donc dans ce cas-là, je vais la prendre et je vais mm-hmm. m'occuper d'elle. Mm-hmm. Je vais bien sûr avant demander mon mari qui a 70 ans passé s'il voulait accepter la présence de ma maman. Il m'a mm-hmm. dit oui. Mm-hmm. Et c'est vrai que à la maison on a pu la confiner. Elle avait sa propre chambre, sa propre salle mm-hmm. de bain. Et elle était mille fois mieux qu'à l'hôpital, oubliée dans un coin, sur un brancard.
Et pour 15 jours au moins, nos déplacements seront très fortement réduits. Seuls doivent demeurer les trajets nécessaires. Nous sommes en guerre.
Voilà.
Voilà, voilà. Mais écoute, hein.
15 jours, quoi.
C'est le moyen de s'occuper de la maison, tout ça, tu vois.
Non, mais calme-toi, mon cher, je te sens détendu,
ça va. Ah non, je te promets, ça va très bien.
Bah, je te connais, je le vois détendu, c'est rien, 15 jours,
mon cœur. Bébé, je te promets, pas du tout, ça va. Je suis calme.
Bébé, arrête de me dire que t'es calme, je te connais. C'est rien, c'est quoi 15 jours dans une vie? C'est quoi? C'est deux week-ends, au max. C'est quoi? C'est rien. On va rester là, enfermé là, hein, on va voir personne, il n'y a pas de problème. On va pas sortir, on va rien bouffer des pains pendant 15 jours, mais ça va le faire. On sort pas, voilà, tranquille. On se calme. Voilà, ça va le faire.
Arrêtez la propagation de la Covid-19. Évitez de sortir, sauf pour la nourriture, les médicaments et les rendez-vous médicaux. La COVID-19 peut être mortelle. Restez chez vous. Suivez la COVID-19 sur ontario.ca/nouveau coronavirus.
CIUT 89.5 FM, the station that brings you Democracy Now! With Amy Goodman, Monday to Friday, 10 to 11 a.m.
CIUT 89.5 FM, the sound of your city. Radio, CIUT 89.5, the sound of your city.
France 24, 4 chaînes d'information continue, 430 journalistes, 35 nationalités, 160 bureaux de correspondants à travers le monde. Une présence mondiale. 355 millions de foyers reçoivent France 24 dans plus de 180 pays. 55 millions de téléspectateurs regardent la chaîne chaque semaine. Et ils sont de plus en plus nombreux, avec une audience en progression de 31%. France 24, c'est aussi un succès sur le numérique. Chaque mois, ce sont plus de 18 millions de visites sur france24.com. Et 40 millions de vidéos vues en ligne. France 24 est numéro 1 sur YouTube et ses 35 millions d'abonnés sur Facebook et Twitter font d'elle la première chaîne française sur les réseaux sociaux. Vous êtes toujours plus à nous faire confiance. Merci.
Bien.
Je suis.
Oui. On a eu la note de français. 15.
Yes.
Mais oui, madame. Très bon travail. Dommage les fautes d'orthographe.
Oui, tu vois, je te l'avais dit.
Oui, non, mais c'est bon, on s'en fout. 15. Mais attends. La journée n'est pas finie. Mmh. J'ai eu les parents de Julien au téléphone.
Et
ils ont eu 12.
Putain, c'est bon ça, les cons. On leur repasse devant dans la moyenne.
Oui, c'est ça. Là, par contre, en histoire géo, faut tout donner. Hein.
Point positif dans tout ça, les parents révisent leur base et pour nous, Mathis n'aura jamais eu une si bonne moyenne.
Et c'est grâce à qui?
Bah, à moi.
Et comment ça, c'est grâce à toi?
Bah oui, à moi.
Bébé était incapable de faire un exercice de maths.
Attends, c'est qui a sauvé son exercice d'histoire géo la semaine dernière?
L'histoire géo?
L'histoire géo, c'est le français, on parle de ton orthographe?
Non, mais tu...
Non, oui, monsieur, mais...
Mais on note pas l'orthographe,
madame. Et la conjugaison?
Non, il note pas l'orthographe.
Toutes tes copines notent l'orthographe.
On parle un point ou deux.
Bébé,
c'est qui a fait les deux maths?
Il met les maths. Au début, le confinement, clairement, tu vois ça comme une aubaine.
Rester à la maison, squatter Netflix, ne plus avoir la course d'aller chercher les enfants à l'école.
Sauf que bon, après, il y a quand même des contraintes qui restent inévitables, malgré le confinement.
Tous confinés, bienvenue à Popourri Show, une émission spéciale en mode virtuel animée par Eric Kader en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Montage, mixage, DJ Rivera dans un studio de fortune. vous avez un sujet, des astuces ou des recommandations concernant la COVID-19, veuillez nous envoyer un message à popourri@cit.fm. Partout sur la planète, des équipes de chercheurs s'activent pour trouver un vaccin contre la COVID-19. Des équipes de spécialistes en Grande-Bretagne font des tests assez avancés cette semaine. Plusieurs médias ont repris un remède à base de plantes médicinales à Madagascar, dont notre correspondant mauricien Percy Iptong nous en parlera dans sa nouvelle chronique. Eh oui. Une auditrice nous pose la question suivante. Pourquoi dit-on la COVID-19 au Québec? Eh oui, en France, on dit en général le COVID-19. Au Québec, c'est la COVID-19. Pourquoi? C'est la question de la semaine. Retenu par l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le terme pour désigner le nom du virus de cette pandémie est employé au féminin. Tout bonnement parce que il désigne la maladie. Le nom complet étant maladie à coronavirus 2019. Il va de soi que le féminin relié à la maladie désigne le terme de la COVID-19. Et cette formulation, je vous rappelle, se retrouve également sur le site de l'Éducation nationale et du sol français. Mais la presse française et l'usage en général a choisi le masculin. Les aînés au Canada et dans le monde sont sur la ligne de front face au coronavirus. Et oui, les résidences privées, en passant par les centres d'hébergement, de soins de longue durée, le modèle d'hébergement pour personnes âgées en Ontario et au Québec sont assez complexes. De vives réactions dans les médias de la part des Canadiens et des Canadiennes cette semaine. Comment les médias francophones au Canada couvrent la COVID-19? Un article sur le site de Radio-Canada nous rapporte que les femmes racisées ou immigrantes, si vous préférez, sont exploitées pour le travail auprès des personnes âgées. Un syndicat lance un véritable cri du cœur. La population doit prendre conscience que les emplois de préposés aux bénéficiaires, dont plusieurs ont critiqué les conditions de travail peu enviables, des emplois majoritairement occupés par des femmes afrodescendantes, africaines ou maghrébines. Le président, d'ailleurs, de ce syndicat, syndicat des travailleurs, des travailleuses du centre-sud de l'île de Montréal, souhaite ainsi que la crise de la COVID-19 amène les Canadiens et les Québécois à comprendre ce que le Canada, le Québec, ont fait pour les soins pour les personnes âgées. La COVID-19 menace la liberté de la presse, selon Reporters sans frontières. Dans son classement annuel, Reporters sans frontières évoque la bataille menée par la journaliste Marie-Maude Denis de Radio-Canada pour ne pas avoir à révéler ses sources confidentielles. Et enfin, pour limiter la propagation du coronavirus, les universités sont fermées jusqu'à nouvel ordre, mais la continuité de l'enseignement est-elle assurée? Quelles sont les solutions mises en place dans votre pays, dans notre pays, pour sauver l'année universitaire? Étudiants, enseignants, vos témoignages nous intéressent. Université en Afrique, craignez-vous une année blanche? Je vous laisse avec Juan Gomez du magazine Appel sur l'actualité de RFI.
Exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Appelez-nous, exprimez-vous, vous êtes étudiant ou enseignant. Eh bien, RFI vous donne la parole. Depuis un mois, la quasi-totalité des universités africaines sont fermées pour limiter la propagation du coronavirus, fermées jusqu'à nouvel ordre. Alors oui, dans certains pays, les autorités s'organisent pour permettre aux étudiants de suivre leurs cours à distance. Des plateformes ont été mises en ligne, ça marche plus ou moins bien, mais pour ceux qui voient que ça ne marche pas, le principal problème, c'est l'accès à Internet. D'où cette inquiétude qui monte. Comment préparer les examens de fin d'année? Comment seront-ils organisés? En respectant évidemment les exigences du confinement, de la distanciation sociale. Et dans ce contexte, pourra-t-on éviter une année blanche? Vos témoignages évidemment nous intéressent. Vous nous appelez 33 9 693 693 70. Vous continuez à poster vos commentaires, vos réactions sur WhatsApp et Facebook. Je croule sous les commentaires, pour être honnête, plusieurs centaines. On voit que c'est un sujet concernant, un sujet qui ne vous laisse pas indifférent. J'ai sous les yeux le témoignage, ou le, plutôt les inquiétudes de Bienvenue. Il nous écrit de Matadi. Il nous dit « Chez moi, en RDC, aucune disposition n'est prise et j'ai peur d'une année blanche. » Mohamed affirme qu'au Mali, la continuité pédagogique est une utopie car beaucoup de localités n'ont pas accès à l'électricité et à plus forte raison à Internet. Rama nous a envoyé quelques lignes de Dakar au Sénégal. Rama estime que le risque d'une année invalidée est bel et bien réel dans son pays où tous les étudiants n'ont pas accès à Internet. Déjà que les années se chevauchent avec le confinement, il faut craindre une année blanche au niveau du supérieur. Bonjour Alpha Amadou.
Oui, bonjour Juan.
Vous êtes à Conakry, vous êtes étudiant à l'université Lansana Conté en master sciences politiques. Comment vous organisez-vous depuis un mois?
Nous respectons les consignes qui sont données par les autorités, d'autant plus qu'on ne sait pas jusqu'à quand on va avoir la maîtrise de cette pandémie, nous permettant ainsi de reprendre les cours. Mais les cours en ligne s'organisent de façon informelle, c'est-à-dire que ça peut partir de l'initiative d'un groupe d'étudiants qui va envoyer une demande au professeur pour qu'en retour, il leur envoie des cours en ligne. Mais c'est comme ça qu'on se débrouille ici, sinon, à part ça, il n'y a pas grand-chose.
Oui. Donc si je comprends bien, c'est sur la base du volontariat. Si un enseignant, un professeur est motivé, il veut aider ses élèves, il crée un groupe WhatsApp et... il vous transmet régulièrement des cours.
Ah oui, c'est comme ça qu'on se débrouille ici, parce que les cours en ligne demandent un niveau de développement que nous n'avons pas pour l'instant. Ça demande de l'électricité, le courant, ça demande aussi une connexion fiable, et le tout couronné par des outils que les étudiants ne disposent pas, un ordinateur ou bien une tablette.
Oui. Et donc du coup, avec le téléphone, vous pouvez facilement accéder à WhatsApp et forcément suivre des cours. Est-ce que vous avez l'impression, Alpha Amadou, en tant qu'étudiant, que l'État et, pour ainsi dire, le ministère de l'enseignement supérieur est complètement dépassé par cette crise?
Bon, je ne dirais pas dépassé, parce que bon, nous sortons d'un processus électoral qui est extrêmement compliqué, donc il y a des problèmes de financement qui peuvent se poser, mais que le tout dans le tout, le ministère s'active bien sûr pour nous mettre dans des conditions afin de nous permettre de ne pas perdre l'année.
Ouais, vous craignez tout de même l'année blanche?
Oui, certainement, oui. Ça craint parce que bon, on ne sait pas quand on va avoir la maîtrise de cette pandémie et dans quelques jours aussi, la saison des pluies va commencer et généralement avec la saison des pluies, si à Conakry, les choses sont compliquées.
Ouais. Il y a Amadou qui nous écrit du Burkina Faso, il est étudiant à Kodougou. Ici, aucune mesure concrète n'est assurée depuis la fermeture des universités. Les étudiants s'organisent pour réviser, mais jusqu'à quand? Nous vivons, dit-il, dans des conditions précaires. À un moment donné, on sera obligé de lâcher les études car il faut bien manger avant d'étudier. Vous vous retrouvez, Alpha Amadou, dans le commentaire de cet étudiant du Burkina Faso?
Ah oui, évidemment, oui. Évidemment. Et il faut d'abord vivre pour pouvoir suivre des cours. Et donc, il faut se protéger et essayer de voir ce qu'on peut avec les moyens qu'on a.
Bon courage à vous, Alpha Amadou, et prenez soin de vous, et continuez à nous écouter. RFI vous accompagne. Bonne journée à Conakry. Victor, soyez le bienvenu.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes étudiant à l'université de Tchang, c'est dans l'ouest du Cameroun. Contrairement à Alpha Amadou, à Conakry, vous vous êtes plutôt rassuré.
Oui Juan, depuis l'avènement de cette pandémie Covid-19, les autorités ont pris des mesures de confinement. Et là, au niveau de l'enseignement supérieur, le ministre de l'Enseignement supérieur avait pris certaines dispositions pour assurer la continuation des cours. Et là, l'université de Tchang en particulier avait pris des dispositions en accord avec les autorités électorales pour que les cours se passent en ligne. Et les autorités électorales ont mis sur pied une plateforme permettant aux étudiants d'y accéder également permettant aux enseignants de venir mettre les cours là et
alors, nous qui voir. Victor, j'ai envie de dire, c'est superbe, c'est beau sur le papier, mais est-ce que ça fonctionne concrètement? On entend souvent, et j'ai des dizaines de commentaires d'auditeurs qui nous disent, oui, il y a des plateformes mises en place, le problème c'est qu'on n'a pas suffisamment de connexion à Internet pour pouvoir télécharger. Est-ce que vous, ça fonctionne, Victor?
Oui, Juan. Actuellement, je vous dis, ça fonctionne normalement. Et hier ou avant-hier, j'étais là en train de travailler sur un devoir que je devais envoyer en ligne d'ici quelques jours. Et parlant justement de la connexion, le recteur de l'université de Tian avait signé un accord de partenariat il y a deux jours avec la téléphonie mobile Orange, afin que tous les étudiants de cette université puissent avoir accès gratuitement à la plateforme.
Ah, formidable initiative. Si les opérateurs téléphoniques contribuent justement à la continuité de l'enseignement, chapeau, bravo à eux. J'ai le commentaire de Boris, lui aussi est au Cameroun, mais il n'est pas à Chang, il est à l'université de Yaoundé. Il nous dit les responsables de l'université ont créé un site pour que les étudiants puissent télécharger les cours. Ça fonctionne bien. Chaque étudiant s'est vu attribuer un compte sécurisé pour recevoir les cours et éventuellement déposer les devoirs. Je précise, nous dit Boris, que nous travaillons avec un enseignant sur Google Classroom. Il y a donc interaction entre étudiants et enseignants. Nous avons bien avancé dans notre programme. Nous avons fait plusieurs devoirs que l'enseignant a corrigés en ligne. Donc chapeau, visiblement ça fonctionne à Yaoundé et ça fonctionne également à Chang. Un dernier mot peut-être, Victor?
Oui, j'espère même que quand la pandémie va continuer, on peut même espérer soutenir en ligne, parce qu'actuellement je suis en train de travailler sur un mémoire de master et que d'ici si rien ne change, si la pandémie continue, on peut espérer soutenir en ligne, parce que l'université avait mis toutes les dispositions possibles pour que l'année académique puisse bien achever.
D'accord, donc pas d'inquiétude concernant une éventuelle année blanche au Cameroun, vous concernant Victor. Merci infiniment d'avoir appelé. Bon courage pour vos études et vos examens en ligne du coup. Njili, bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs d'RFI.
Vous nous appelez de Kinshasa, vous êtes étudiant à l'Unikin.
Oui Juan.
À l'université de Kinshasa. Vous êtes inquiet vous, hein, Njili?
Oui, pardon?
Vous êtes inquiet, je disais.
Oui, nous sommes particulièrement inquiets, Juan, puisque vous l'avez dit précédemment que les enseignements ont été suspendus il y a un mois. Mais chez nous, à l'université de Kinshasa, ce n'est même pas le cas, puisque vous le savez aussi bien que les activités ont été suspendues bien avant loin le coronavirus, suite aux manifestations violentes des étudiants d'abord au début du mois de janvier. Donc l'inquiétude grandit de plus en plus. Puisque notre situation est particulière à l'UNIKIN, on a donc peur de voir l'UNIKIN irrécupérable pour cette année. On sera peut-être obligé de faire l'année en cours l'année prochaine. Donc c'est la peur est grande chez nous.
Et aucun enseignant se mobilise pour créer des groupes WhatsApp et continuer l'enseignement à distance?
D'ailleurs, c'est ce qui accentue la peur, puisque rien n'est pris comme disposition, rien du tout. Il n'y a pas de disposition pratique pour qu'il y ait ne serait-ce que des cours en ligne ou des cours à la télévision, à la radio, rien n'est fait. Ouais. Rien n'est fait jusque-là, on ne sait pas.
Donc vous êtes livré à vous-même, vous essayez malgré tout d'étudier à la maison ou c'est impossible, Njili?
Oui, nous essayons d'étudier à la maison, de réviser peut-être ce que nous avons déjà étudié, mais et puis essayer de voir le matière de cette année que nous n'avons pas encore étudié, mais dans une telle condition, presque la majorité des étudiants de l'UNIKIN s'attendent de plus en plus à une année blanche. Donc la peur est grande.
Vous êtes très nombreux à nous avoir contactés de l'UNIKIN pour témoigner et tous vos témoignages se ressemblent. Et Njili, d'une certaine façon, s'est fait votre porte-parole. Merci infiniment. Ah tiens, ne raccrochez pas Njili. Jean-Pierre, je vous le présente, il est également à Kinshasa. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Juan.
Attendez, je vous présente, vous êtes présenté au Standard comme conseiller et inspecteur d'éducation.
Oui, oui, oui.
Donc, ça veut dire quoi? Que vous travaillez au sein du ministère ou pas du tout?
Au sein de l'administration du ministère. Au sein de l'administration du ministère, à plusieurs directions.
Monsieur Wan, allez-y.
J'aimerais d'abord rendre hommage à un pionnier de cette télé pédagogie qui vient de décéder il y a deux jours à Kinshasa, M. Deo Guizamaguera, qui s'est toujours consacré comme pionnier, M. Deo Guizamaguera, à cette télédidactique.
Vous savez... Il y a une télédidactique, oui. C'est-à-dire, parce que moi je découvre, il y a une chaîne de télévision...
Bon, il y a une chaîne de télévision au niveau de l'enseignement fondamental et primaire qu'on appelle EduTV, au niveau des lycéens, des collégiens, qui est en train de chaque heure, sur 24 heures, en train de dispenser des cours. Et ça, c'est grâce au ministre Willy Bakunga, qui est vraiment le pionnier de la classe télévisée.
Alors ça, c'est bien. Excusez-moi de vous interrompre, Jean-Pierre. C'est très bien pour les enfants qui vont à la maternelle, à l'école élémentaire, au collège, au lycée. D'ailleurs, j'en profite pour rappeler que tous les jours, Emmanuel Bastide, dans 7 milliards de voisins, avec des enseignants, donne des cours d'écriture, des cours d'orthographe, des cours de géographie, de mathématiques, etc., etc. Mais là, Jean-Pierre, on parle des étudiants. Les étudiants, visiblement, est-ce qu'ils peuvent suivre des cours à travers cette chaîne de télévision?
Oui, bien que à petite quantité, mais j'aimerais plus vous parler d'une expérience qui existe à Kinshasa, à l'Institut supérieur de commerce de Kinshasa, où il y a une salle qui existe où les étudiants peuvent suivre à distance des cours, y compris de leurs professeurs d'université et aussi des professeurs d'université d'ailleurs, par exemple de l'université de Liège. Et là, le professeur Augustin Bangala, c'est depuis 2 ans que l'Institut supérieur de commerce est en ligne avec presque toutes les universités du monde.
Mais attendez, Jean-Pierre, Jean-Pierre, si je comprends bien, il faut se rendre, il faut que les étudiants aillent dans une salle.
Ça, c'est avant cette méthode, cette période de confinement.
Ben voilà, mais maintenant qu'il y a le confinement et que la distanciation sociale est obligatoire, comment faire?
Oui, ça c'était au niveau du master. Maintenant, ils ont élargi ça par une application où tous les étudiants peuvent suivre en temps réel des cours de l'Institut supérieur de commerce et leurs professeurs.
D'accord.
C'est quelque chose qui existe.
Bon, vous avez le nom, Jean-Pierre, le nom de l'application?
Oui. Le nom de l'application, je le connais pas, il faut que
vous savez quoi? Alors, vous renseignez, vous nous le dites en antenne, et on le publiera sur la page Facebook de l'émission, parce que ça peut intéresser évidemment de nombreux étudiants de l'Unikin. Sidi, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Sidi, vous êtes à Dakar, étudiant licence 3 en ingénierie civile, c'est bien ça?
C'est ça.
Alors, comment voyez-vous cette année universitaire? Est-ce que vous craignez l'année blanche ou pas?
Eh bien, disons pas vraiment chez moi. Et il y a cela un moment qu'on a commencé les cours en ligne, et pour l'instant tout se passe bien. Et hormis certaines difficultés que nous rencontrons, et on est très optimiste et dans l'ensemble, je crois qu'on gère et il n'y a pas vraiment de quoi s'inquiéter pour une année blanche.
Vous n'avez pas de problème de connexion, vous?
Si, ce que je disais tout à l'heure, et hormis certaines difficultés et des petites interruptions de connexion et qui nous empêche de suivre un petit peu le cours.
Sans vouloir vous provoquer, vous dites pas de problème de connexion. Bon, de temps en temps, ça arrive partout, des problèmes de connexion. Est-ce que vous n'êtes pas tout de même un privilégié? Le fait d'avoir accès à Internet. Je vois des chiffres ici et là, 70% de la population qui n'a pas accès à Internet. Vous faites partie de ces 30%-là qui ont accès à Internet, Sidi.
Et oui, je pense que c'est d'ailleurs une idée ingénieuse qui leur est venue en tête. Mais c'est quelque chose qu'il faut saluer. Et nous sommes très contents et parce que nous on arrive à suivre les. Et voilà, je disais qu'on arrive à suivre nos cours à grande distance. Et il y a pas mal de ces cours là qui nous parviennent et.
Oui, mais bon, vous n'avez pas bien compris ce que je voulais vous dire. Je voulais vous dire que si ça fonctionne pour vous, c'est très bien, j'en suis évidemment très heureux, mais en même temps, voilà, vous êtes quand même un privilégié. Le fait d'avoir accès à Internet, ce n'est pas donné à tout le monde. Ibra nous écrit de Guinée. Il nous dit, il est fort probable qu'il y ait une année blanche, car aucune stratégie n'est mise en place pour sauver l'année universitaire. Et il ajoute, ce n'est pas surprenant, car la promotion de la médiocrité est devenue une coutume dans notre pays. Bonjour Armel.
Bonjour.
Bonjour Armel, vous êtes à Bangui, vous nous avez envoyé un commentaire, vous êtes en Master 1 Sciences Politiques à l'université de Bangui, la seule université du pays d'ailleurs, et vous aviez envie de nous raconter comment vous vous organisiez.
Ah oui, évidemment, chez nous, dans la seule université publique du
voyez, il n'y a aucune mesure, il n'y a aucune mesure pour sauver l'éducation au sein de notre université. Alors, à l'université de Bangui, il y a 9 facultés, mais chaque faculté évolue en différentes années académiques. Il y a d'autres facultés qui ont plus d'années sur les autres, il y a d'autres qui sont en retard. Alors du coup, nous craignons évidemment l'année blanche, parce que ici, il y a certaines facultés qui sont déjà au second semestre, d'autres viennent seulement de commencer.
Ah oui. Alors, oui, il y a un décalage entre chaque faculté. Il y en a 9, donc, si j'ai bien compris, à l'université de Bangui. Est-ce que les profs s'organisent tout de même pour vous transmettre d'une façon, système D, les cours?
Non. J'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de mesure. Il n'y a pas de mesure, même de cours sur WhatsApp. Alors, ça posera vraiment problème, même si les profs s'organisent, parce que la connexion... Ici, même au sein de l'université n'a pas un réseau Wi-Fi. L'université de Bangui n'a pas un réseau Wi-Fi. Hein, et c'est très difficile pour se connecter. Il va falloir se connecter sur un téléphone. Et même s'il y a la connexion, les étudiants auront problème avec comment ils vont avoir les ordinateurs et autres, les tablettes.
Bien sûr. C'est la réalité, effectivement, des étudiants de Bangui. Armel, vous savez quoi? À l'instant, il y a Mélo sur WhatsApp. Il est étudiant, lui, en sciences politiques. Et il nous dit, l'accès à Internet est un luxe. La seule université du pays ne dispose pas de Wi-Fi. Voilà pour ces témoignages. Bonne journée, bon courage, Armel. Casimir, on va terminer avec vous. Il nous reste que 2 petites minutes. Bonjour, Casimir.
Oui, bonjour, Juan.
Alors, vous n'êtes pas étudiant. Vous êtes enseignant, vous, dans un collège.
Si.
Voilà, dans un collège, mais ça nous intéresse quand même. Comment vous vous organisez? Comment faites-vous pour continuer à transmettre les cours à vos élèves?
Oh, pratiquement rien, sauf ceux qui sont vraiment nos proches, et puis on peut leur proposer des exercices à traiter et ils nous soumettent après pour correction. En dehors de cela, pour l'ensemble des élèves, il n'y a pratiquement rien.
Aucun suivi pédagogique, alors. C'est-à-dire que vous-même, Casimir, en tant qu'enseignant, vous livrez à eux-mêmes vos élèves, vous les abandonnez.
Ben, on les abandonne pas parce qu'on le veut, parce qu'il y a d'abord la question du confinement, il y a la question de la distanciation sociale, et comment rencontrer des gens et leur prodiguer des conseils et leur enseigner un petit savoir si on ne peut pas les rencontrer.
Ouais. Ça, on est d'accord. Et... les rencontrer, c'est impossible, Casimir. Mais je ne sais pas, tout à l'heure, je ne sais plus quel étudiant nous disait que dans son pays, les professeurs, sur la base du volontariat, créaient des groupes WhatsApp pour continuer à garder le contact avec les élèves. Est-ce que ça, c'est une possibilité pour vous, Casimir?
Oui, c'est possible pour ceux qui disposent d'appareils, et il y a la possibilité de créer un compte WhatsApp.
Ouais.
Et vous savez que nous sommes dans un pays assez pauvre et la plupart des élèves ne disposent pas d'appareils à mesure de faire cela.
Évidemment.
Et mieux, pour ceux qui l'ont, la connexion est capricieuse très souvent.
Capricieuse. Alors, et chère, et très chère. En Afrique du Sud, les étudiants sont prêts à se mettre en grève alors qu'ils sont confinés à la maison, mais justement parce qu'il y a des problèmes de connexion et que la connexion coûte très très cher. Allez, on prolonge le débat vendredi si vous le souhaitez dans la libre antenne. Demain, on parlera du Togo. Et cette question, on parlera de l'avenir judiciaire d'Akpeyome Kodjo. Caroline Paré, bonjour.
CIUT 89.5, Toronto.
Et il y a aussi nous. Nous qui luttons pour exprimer nos pensées. Nous qui luttons pour chercher le respect des autres. Nous qui ne fléchissons pas devant les remarques des autres, les jugements que l'on nous porte. Nous qui nous sommes défendus contre les abus physiques ou moraux. Nous qui avons surmonté les discriminations sexuelles, hommes, femmes, hétéros ou homosexuels. Nous qui avons vaincu un handicap ou une maladie. Nous qui élevons nos enfants, parfois seuls. Nous qui puisons en nous le courage, la force et la volonté pour changer, avancer et s'élever. Nous qui surmontons tous les jours des inégalités sociales. Nous qui devons lutter pour nourrir notre famille. Aujourd'hui, nous sommes 50 héros à être sortis de l'ombre. Nous sommes debout devant vous pour défendre les droits humains, la liberté d'expression, l'égalité des genres, pour combattre l'injustice et la violence. Nous voulons faire évoluer les mentalités et les comportements pour une société juste. Demain, soyons plus de 50 000 héros à rejoindre le mouvement et plus nombreux à Rise and Shine.
Vous vivez une crise, vous avez besoin d'aide, mais vous ne savez pas où vous adresser? Notre partenaire Yann, la thérapeute du cabinet Noir et Psy à Toronto, est là pour vous aider. Psychologue de formation spécialisée en approche interculturelle, Yann, la thérapeute, a une approche qui prend en compte l'aspect de la diversité culturelle, la langue et la compréhension des difficultés médicales de ses patients. Alors qu'on constate que la diversité culturelle et la langue française posent de vrais défis pour des cliniciens en santé mentale, la spécialiste et psychologue Yann la Thérapeute a déjà fait ses preuves. Yann la Thérapeute possède une expertise dans le traitement des problèmes complexes de santé mentale s'ajoutant aux difficultés d'adaptation. N'attendez plus, découvrez la clé du bien-être en toute discrétion. Abonnez-vous à ses blogs, à sa page Facebook. Noir et Psy avec Yann la Thérapeute dans CUT 89,5 FM Popourri Chaud. Noir et Psy, la santé mentale sans tabou. Par téléphone, le 437-775-8767 ou visitez le site web www.noirepsy.org. Soyez intelligent. Contactez Noir et Psy, Yann la Thérapeute. Aidez-vous maintenant. Noir et Psy, en partenariat avec Popourri Chaud et CUT 89,5 FM, la radio comme je l'aime.
On va maintenant s'attaquer à un terrain où tout le monde va se reconnaître, la cuisine.
Bah oui, la cuisine.
Bah non.
Bah oui.
Bah non, tu cuisines jamais, bébé.
Ah ouais, c'est vrai.
Clairement, le premier jour du confinement, tu dégaines tout, tu te transformes en Maïté, prête à dégommer la première anguille qui passe. Nous, tu vois, c'est le moment pour jamais de revenir à l'essentiel, aux bases, la cuisine saine. Là, ça sent la cuisine de ma mamie. Voilà, là, je vais te faire des petits plats, mon chat, pendant ce confinement, mais tu vas devenir ouf.
Ouais.
Ah, clairement, tu vas appeler TF1, tu vas dire, on a une nouvelle Maïté, c'est Roxane, quoi. Ah non, mais c'est génial.
Tous confinés, bienvenue à Popourri Chaud, une émission spéciale en mode virtuel animée par Eric Kader en partenariat avec RFI, RTL, TV5 Monde, France Inter et France 24. Montage, mixage, DJ Devera dans un studio de fortune. Je tiens à remercier tous les amis, collaborateurs et médias partenaires tels que les chaînes du groupe France Média Monde, France 24, RFI et Monte Carlo, qui sont garantes d'une information certifiée, honnête et équilibrée. La première arme, d'ailleurs, pour lutter contre toutes les formes d'infox, rumeurs, propagande, manipulation, piège à clic. Merci à notre amie poète et autrice d'origine mauricienne qui vit à Toronto, Peggy Lampotam, qui nous a envoyé un très beau poème. C'est en anglais. Allez sur notre site popourri.com pour avoir accès au lien de son blog. Pour le reste de l'émission, nous avons concocté un moment de bonheur et d'humour pour vous, mesdames, messieurs, ceux et celles qui ont le moral un peu bas. Et oui, France Inter nous propose le journal d'un confiné. Anouk Jeannot-Dodd, retraitée, nous décrit son quotidien depuis l'apparition du coronavirus en Suisse. Le comédien Anthony Joubert nous lance quelques parodies très drôles. Et après l'Afrique, c'est au tour des artistes de l'île de la Réunion et de l'île Maurice, Nous les confinés, parodie de Alain Ramanisson, et la nouvelle chanson coécrite par Claudio Viraragu, Michel Viraragu et Percy Hipton, intitulée Pacosté, ce qui veut dire en français Ne te rapproche pas trop de moi. Une chanson qui se veut être une ode à l'optimisme, avec des messages remplis d'espoir, mais aussi qui mettent en avant les consignes sanitaires visant à combattre le coronavirus à l'île Maurice. Comment les Mauriciens, Mauriciennes vivent le confinement? Quelle est cette toute nouvelle découverte de Madagascar dont tous les médias occidentaux en parlent cette semaine? C'est avec plaisir que je vous présente notre ami correspondant et producteur, Percy Iptong. Percy est un éternel optimisme. Il dit, je cite, « Profitons tous du confinement pour réfléchir à un nouveau modèle de société plus juste et durable. » Suis heureux car suis certain que la planète Terre va s'en sortir, dit-il. Certes, avec énormément de victimes, mais la plupart d'entre nous seront encore vivants. Cela ferait bien de réfléchir sur la façon dont ils veulent continuer de vivre et sur comment ils envisagent leur futur, notre futur. Merci Percy et tous les techniciens, les amis correspondants qui ont participé à cette émission, tous confinés. Bonne semaine et à dimanche prochain, si vous le voulez bien. Je laisse le micro virtuel à mon ami Percy. Ciao.
Bonjour, je suis Percy Iptong, directeur artistique et producteur de l'île Maurice, actif bien sûr dans l'océan Indien et le continent africain. Et depuis quelques années, correspondant de CIUTU FM sur le Popuri Show. Et ça me fait plaisir aujourd'hui de venir témoigner qu'est-ce qui se passe dans cette petite île de l'océan Indien. Ben, au départ, nous n'avons vraiment pas assuré puisque nous étions une des seules destinations touristiques prisées au monde où il y a eu zéro cas positif. Donc le gouvernement voulait surfer sur cette réussite et a ouvert le pays aux touristes avec 50% sur les billets d'avion et autres rabais possibles dans les hôtels, etc., pour attirer les touristes. Or, grosse erreur, puisque le virus est entré à l'île Maurice en venant de l'extérieur, soit par les touristes, soit par les Mauriciens rentrant au pays après les vacances à l'étranger. Donc, résultat, nous sommes retrouvés d'un seul coup avec 3 ou 4 cas qui ont démarré pour arriver jusqu'à 360 cas. Mais heureusement, dès que les premiers cas, dès que les 3 premiers cas étaient révélés, nous avons été confinés. Puis le couvre-feu. Donc ça fait 4 semaines qu'on ne sort pas de chez nous et qu'on sort que pour aller acheter à manger. Il n'y a que les services essentiels qui marchent, bien sûr, et surtout à l'hôpital. Finalement, le gouvernement a rattrapé son erreur, a imposé un confinement très strict. Bien sûr, la population, pas tout le monde sont disciplinés, mais quand même, la majorité, on l'a fait. Et maintenant, on l'a stabilisé. Ça fait 5 jours qu'aucun cas positif n'a été détecté. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, c'est que tout dépend si les tests sont faits ou pas. Mais déjà, c'est très positif. Et donc, on n'a pas de leçons à prendre avec quand on voit les grands chefs d'État comme Poutine, Boris Johnson ou Donald Trump, où dans leur pays, le nombre de décès et de cas répertoriés sont énormes. Et aussi, on voit que le public, que la population ne suit pas les consignes de confinement. Surtout aux États-Unis, où on voit, où même le président incite les gens à sortir et ne pas respecter le confinement. Or, on a vu que nous, à Maurice, le confinement a aidé à ralentir la chose. Et là, je voudrais faire ressortir que donc l'Afrique n'a pas trop de leçons à prendre, puisque aujourd'hui, quand on voit la carte mondiale, l'Afrique est un des rares pays les moins touchés. Et bizarrement, puisqu'ils sont quand même les pays les plus peuplés, où il y a beaucoup de promiscuité dans les quartiers populaires, où la garde des distances sociales, et normalement, cette contamination au Covid-19 aurait dû se partir comme une flambée. Et cela peut s'expliquer par plusieurs raisons, d'ailleurs, puisque le nombre de morts répertoriés en Europe, dans les pays du Nord, c'est parmi les personnes âgées au-dessus de 70 et 80 ans. Et bien, en Afrique, on ne peut pas répertorier à cet âge, puisque le taux de mortalité moyen est de 59-60 ans. Comme ça, déjà, on a éliminé une grosse partie des populations à risque, qui sont les vieilles personnes. Deuxièmement, l'Afrique est habituée à Ebola, malaria, choléra, tuberculose. Donc, le corona, c'est un virus comme un autre. Et d'ailleurs, il fait moins de morts que tous ces autres maladies que je vous ai parlé, des épidémies. Et puis aussi, comme ils ont l'habitude, avec toutes ces épidémies, ils prennent des médicaments comme la chloroquine, la nivaquine, antipaludisme, etc. Et peut-être ça a joué, peut-être aussi la chaleur, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est bizarrement, l'Afrique n'a pas eu la flambée de cas et de décès. Et ce qui était intéressant, si on ferme nos frontières comme une île, comme l'île Maurice, c'est beaucoup plus facile. Et nous avons une petite île à côté qui nous appartient, qui s'appelle Rodrigue, avec 40 000 habitants. Et dès que Maurice a eu le premier cas, l'île Rodrigue a fermé complètement tout accès par bateau ou par avion, avant qu'il y ait un cas, et jusqu'à aujourd'hui, 4 semaines après, 0 cas à Rodrigue. Donc ça prouve que le confinement ou resserrer les frontières et prendre des mesures peut marcher.
Maintenant, j'aimerais revenir, puisque nous sommes au sein indien, il y a la grande île Madagascar, qui est notre île voisine, immense, plus grande que la France et l'Allemagne réunies, avec une forte population. Et là, bizarrement, zéro mort, quand même 180 cas, dont plus d'un tiers sont guéris. Et hier, le chef d'État, le président Rajoel, est le premier chef d'État au monde à annoncer. C'est pas comme des médecins en France, de Marseille et Paris, qui se disputent sur la chloroquine, quel traitement est le meilleur, d'autres traitements de plasma c'est le meilleur. Là, c'est un chef d'État qui vient annoncer que son pays a découvert potentiellement un remède au Covid-19. Et c'est à base d'une plante médicinale ancestrale qui s'appelle l'Artemisia, qui vient de Chine et que ça a été utilisé comme médicament en Chine depuis très très longtemps contre la fièvre, le rhumatisme, les bronches, etc., que l'Afrique a importé, que vu que les médicaments vendus par l'industrie pharmaceutique coûtent cher et n'est pas à la portée de tout le monde. Donc, ils ont utilisé cette plante avec des résultats positifs dans toute l'Afrique. Mais bizarrement, l'Organisation mondiale de la santé et la France, la Belgique l'interdisent comme dangereuse, etc., alors que c'est carrément hallucinant quand plein de scientifiques et des preuves sur le terrain ont montré, et aujourd'hui un chef d'État confirme que ça peut aussi aider à guérir le corona, le Covid-19. Maintenant, donc, cela démontre bien que l'industrie pharmaceutique a gros à gagner dans le cas de tout virus, que ce soit par vaccin ou par médicament, que j'ai l'impression que si l'Organisation mondiale de la santé, que tous les États doivent suivre des consignes, refuser tel médicament ou accepter tel médicament, est un peu... il y a des conflits d'intérêts. Et parce que maintenant, si Madagascar, son remède à base homéopathique de plantes marche vraiment, comme c'est le cas pour la malaria, alors que l'Organisation mondiale de la santé refuse, et en plus il n'y a pas d'effet secondaire comme les médicaments chimiques produits par l'industrie pharmaceutique, si Madagascar, sa solution fonctionne, eh ben, c'est eux qui gagneront le pactole et beaucoup d'argent qui aidera d'alléger la pauvreté et de développer l'économie de cet État africain parmi les plus pauvres au monde. Et bien sûr, l'industrie pharmaceutique va perdre gros. Donc c'est une question que je lançais en l'air. Il fallait bien voir qu'il y a aussi des retombées économiques énormes et que mettre de côté des plantes médicinales traditionnelles qui fonctionnent, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il n'a pas dit ça comme ça, hein. C'est quand même un centre de recherche médicale avec des experts malgaches qui ont étudié bien sûr en Europe, aux États-Unis, avec des experts étrangers qui sont revenus avec ce médicament, et les résultats le montrent, zéro décès, plus d'un tiers guéri et seulement 180 cas positifs. Donc, même si les chiffres, il ne faut pas trop se fier sur les données puisque rien n'est 100% exact, mais en tout cas, aujourd'hui, l'Institut Max Planck d'Allemagne, avec le Danemark, ont décidé de faire des recherches plus poussées sur l'Artemisia et ses effets pour guérir le Covid-19, alors que la France et la Belgique, par exemple, interdisent toujours cette plante. Donc il y a espoir, puisque maintenant il y a des Européens qui sont peut-être plus tournés vers les plantes, etc., comme l'Allemagne, les pays scandinaves, qui vont prouver que Madagascar a sa carte à jouer. Donc, très content de l'île Maurice, de Rodrigue et de Madagascar, qui ont montré qu'il y a des exemples où on se comporte mieux, la population, que les États-Unis ou les Européens, etc. Et qu'on a des chefs d'État en Afrique, certes avec des défauts, mais désolé, comme Trump ou comme Poutine, ou comme même Boris Johnson qui donne la main à tout le monde pour dire qu'il n'y a aucun danger, et ben ces gens-là, ils méritent d'être foutus à la porte parce que ce sont des criminels en laissant des gens mourir. Donc salut, bye bye Canada, j'espère que j'ai pas été trop long. Gros bisous de l'île Maurice.
Tout pas pour gagner moins corona, tout pas pour gagner moins corona. Nous bisais prendre nos précautions, tout le monde bisait les stagas. Tout pas pour gagner moins corona, nous bisais prendre nos précautions, tout le monde bisait les stagas. Nous bisais son tiro si bien, ça fait des stagas invisibles, n'a pas rien qui patina. C'est pas pour gagner que bisais ta destinée. Nous faisons danser nos enfants, n'a pas disait paniquer, nous confiner dans la case, nous disait profite du moment là, faut passer dans tous les jours à pas nos vies, nos grands-parents, après c'est pas les longtemps pour nous du pays avancer, nous reste à casse, nous t'encourage, pour des outils d'entourage, pas disait faire comme les rages, tu n'aimes pas ce qu'on passe un message. Ok. gain moi corona. Papa pour gain moi corona. Nous bisons prendre nos précautions. Que du monde bisons des stratas. Papa pour gain moi corona. Nous bisons prendre nos précautions. Que du monde bisons des stratas. Ma bise est sortie aussi bien. Sans virus la y'a visite. N'a pas été imaginable. J'ai pas pour gain que bisons pas d'estime. Bien son rabat. De mon père, la veine n'est pas trop jolie. Après tout, m'a fantasé avec nos voisins tous les jours. Avec bénédiction, la veine est pour primer. Arrêtez faire pollution, nous vîmes nos pour primer. À nous aimer, premier âge, nous n'aimons pas, nous passons des sens. Pas pour gagne-moi, Corona. Pas pour gagne-moi, Corona. Nous visons prendre nos précautions. Que du monde visait reste la case. Nous visons sortir aussi bon. Pas pour gagne-moi, Corona. Disait pour nous précaution, que tu me disais reste la case, pas disait sur le tiro aussi, mais ça vit tout ça, y'a invisible qui n'a pas un petit patinage, dis pas pour que tu visages, pas d'esprit, vers son ravage. Pour gagne-moi, Corona, nous visons prendre nos précautions. Que du monde bizarre reste la carte, pas qu'ils aient sorti aussi. Pour gagne-moi, Corona, nous visons prendre nos précautions. Que du monde bizarre reste la carte, pas qu'ils aient sorti aussi. Ça dépisse la vie invisible, qui n'a pas été imaginable. C'est pas pour que tout le bizarre, pas d'esprit, vers son ravage. Pour gagne-moi, Corona, nous visons prendre nos précautions. Que du monde bizarre reste la carte, pas qu'ils aient sorti aussi.
Je vous fais un clin d'œil aussi, Daniel Morin.
Ouais, merci, parce que c'est pas facile de garder le moral en ce moment. Ah, journal de mon confinement. Heureusement, pour nous remonter le moral, il y a quelques messages d'auditeurs qui nous vont droit au cœur. Comme par exemple celui d'Emmanuel qui nous écoute à Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Emmanuel qui nous remercie de lui donner le sourire pendant qu'il travaille. Du coup, je me suis dit, mais on devrait aller en Nouvelle-Calédonie.
Oui.
Mais oui, Marie-Pierre,
oui,
on devrait y aller cet été, histoire d'optimiser. Oui. On resterait jusqu'en janvier 2021, on ferait les émissions depuis la plage. Niveau horaire, Mathilde, c'est plutôt cool. Le 5-7 à Nouméa, c'est le 14-16h. Wow. En même temps, les amis, en même temps, je suis pas sûr qu'ils suivent la direction. On est une radio publique et vu ce que dépense l'État en ce moment, j'imagine mal qu'on nous paye des voyages. Du coup, il m'est venu une idée, Mathilde.
Vous me faites peur.
Oh, arrêtez. Pour renflouer la radio, on va faire de la pub déguisée. Aïe, on va glisser des noms de marques comme ça, ni vu ni connu dans nos conversations. Ça va faire hyper naturel, les annonceurs vont adorer. Et hop, à nous la richesse.
Ni vu ni connu, ça va être discret, vous êtes sûr, Daniel?
Mais oui, tout en filigrane, hein, ça va le faire. Personne va même s'en rendre compte. Allez, on fait un essai.
Ok.
France Inter. Mathilde Munoz.
Bonjour Daniel Morin, vous avez bien dormi sur votre matelas Bultex?
Oh, comme un loir Mathilde, grâce à mon matelas Bultex, je récupère seulement en 30 minutes de sommeil par jour.
Ça, plus une bonne tasse de café Nespresso et en avant-guingant.
Absolument.
Ça va, pas trop dur le confinement?
Oh là 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 là, je dois vous dire, c'est pas facile facile. Heureusement, à côté de chez moi, il y a Monoprix.
Ah, c'est clair que Monoprix, c'est super. Hein. Il y a de tout, pour tous, et pas si cher que ça.
Oh si Mathilde, ça coûte la peau des fesses Monoprix. Mais c'est vrai qu'on trouve tout. Jamais de rupture, j'ai toujours trouvé mon jambon Madrange, mes petits princes de Lu et mon shampoing Head & Shoulders spécial cuir chevelu chauve.
Ah, j'adore ça les petits princes de Lu. Et le soir sur mon canapé Cuir Center, devant ma télé Samsung, je passe des super moments.
Ah oui, grâce à ces produits, le confinement est acceptable, mais vivement que ça s'arrête, qu'on puisse partir au Club Med.
Merci Daniel, vous pouvez maintenant déconnecter votre iPhone 11.
À demain.
À demain.
L'important, c'est que ce soit fait discrètement. Ben oui, vous venez d'entendre, c'est passé comme une lettre à la poste, cette histoire. On va se faire un blé de malade, la radio va pouvoir s'en mettre grave à gauche, l'État va renflouer ses caisses, et bim, tous dans l'avion, et on va partir pour 3-4 mois à Nouméa, retrouver Emmanuel sur la plage. On va passer un moment délicieux, et on va aller à la rencontre des gens de Nouvelle-Calédonie. C'est bon, ça. L'important, c'est que ce soit discret, je l'ai dit. Bon. Ah bah la discrétion. Ça on peut pas dire ce soit son fort à elle. Oui, elle, dans le studio voisin. Elle est pas discrète, mais au moins, elle a le mérite d'être directe. Ah bah quand elle abordait Nico, le prince du matin, elle y a été franco. Hein. Cette femme qui n'y va pas par quatre chemins, c'est bien sûr Léa.
Je me fais avoir, chérie, à...
Salamé, qui en compagnie de son barman Nico Shaker recevra Gérald Darmanin à 8h20 pour parler contrebande et pizza aux anchois, vous en dites.
Nicolas Demorand et Léa Salamé aux commandes du 7-9. La femme sandwich vous salue.
Ah oui, c'est vrai, c'est vous ça.
Ah bah oui.
Alors que moi c'était le roi de la plage jusqu'à présent, mais bon, ça
moi,
Daniel.
La cravacheuse.
Mais ça va revenir, Nico Shaker.
Nico Shaker. Allez, bonne journée Mathilde.
What do the francophones want? Chaque dimanche, soyez de la fête avec Popourri Show sur CUT 89,5 FM. Écoutez les voix du monde sur votre fréquence. Des entretiens musclés, des rendez-vous littéraires, culturels. Quelles sont les valeurs de la francophonie? Quels sont les enjeux de la francophonie? Qui sont les francophones de la planète? Qui sont les francophones de Toronto, de l'Ontario, du Canada? Qu'en pensent les jeunes, les femmes, les LGBT, les immigrants? Ici Eric Taver. Je vous invite à Popourri Show, le magazine phare sur CUT 89,5 FM. Chaque dimanche, de 11h à 13h, en partenariat avec le Centre de Recherche en Éducation Franco-Ontarienne de la Faculté d'Éducation de l'Université de Toronto, le Département d'Études Langagières Campus de Mississauga, la Chaire de Recherche du Canada en Études des Minorités à l'Université de Waterloo, les éditions Prise de Parole, Educ Nation Consulting Inc., Noir et Psy, Radio France Internationale, TV5 Monde, France 24. Écoutez, participez, devenez chroniqueur ou bénévole. Joignez-vous à l'équipe de Popourri Show en nous envoyant un message à popourri@cut.fm ou visitez notre site popourrishow.com. Popourri Show, plus de 34 ans déjà sur CUT 89,5. La radio comme je l'aime.
Et si on parlait un peu encore du coronavirus, hier soir on apprenait que la France et la Belgique allaient fermer leurs crèches, leurs écoles et leurs universités dès lundi. En fin de matinée, on en saura plus sur le renforcement des mesures ici en Suisse, alors qu'on va passer aujourd'hui la barre des 5000 morts dans le monde, dont plus de 1000 en Italie. La mobilisation pour lutter contre la propagation du virus est globale et partout, elle affiche le même but, protéger les personnes à risque et en particulier les aînés. Anouk Jomono, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes retraité, vous vivez à Lausanne.
Oui, au Faverges 12, c'est à 30 minutes à pied du CHUV.
Et ça fait maintenant 2 semaines que vous êtes confiné chez vous.
Oui, c'est aujourd'hui la première fois que je mets le nez dehors en 15 jours. Mais je crois pas que je prenne trop de risques, il y avait personne dans le bus. Ce matin, j'étais dans la remorque.
D'accord.
Et puis vous m'avez promis qu'il n'y avait eu encore aucun cas confirmé à la RSR.
Et à la RTS, oui, c'est vrai.
Et puis je me suis dit que ce serait bien que je témoigne.
Alors, racontez-nous, comment ça va?
C'est dur. C'est dur. 15 jours sans voir personne, à part Pouleng, la petite dame du CMS.
Le CMS, le centre médico-social?
Oui, qui m'aide pour mon ménage, mais quand elle vient me voir, elle met des gants, un masque et puis une charlotte. Et puis elle me dit de garder mes distances.
Mais ça, c'est pour votre bien, vous savez, madame.
Mais oui, je sais bien. C'est bien. Alors, c'est pas comme si avant c'était la cohue. Hein.
Cherchez-vous.
Je précise, oui, chez mais vous, ouais. Chez moi, oui. Mais au moins, je pouvais sortir, je pouvais aller tous les jours au Tirum pour lire les avis mortuaires avec Madame Morel. C'était sympa. Et puis, par exemple, je me suis rendu compte cette semaine qu'il y a eu 4 jours de suite où j'ai pas du tout parlé. Quand j'ai répondu à un démarcheur téléphonique hier, j'ai été surprise par le son de ma propre voix.
Vous vous ennuyez, madame?
Mais oui, bien sûr, je m'ennuie. Mais paraît que l'ennui, c'est moins mortel que ce virus. On verra. Oui, puis il faut dire que le fait que ma télévision, qui fait également radio, soit tombée en panne la semaine passée, ça n'arrange rien.
Voilà. Et vous êtes inquiète?
Il y a trois choses qui m'inquiètent. Trois choses. La première, c'est le fait que mon petit-fils m'a conseillé de mettre toutes mes économies dans des actions à la bourse. Alors, j'ai pris de l'UBS, moins 39,3% en un mois, et puis du Dufry. Vous savez, c'est une boîte qui fait la gestion des magasins hors taxes dans les aéroports. Oui, moins 68,5% en un mois. Mais mon petit-fils m'a surtout conseillé de ne rien vendre parce qu'il paraît que ça va remonter d'ici 20 ans.
C'est une crise passagère.
Oui. La deuxième chose qui m'inquiète, c'est pour mes commissions. Oui, mon petit-fils m'a acheté un iPad.
Oui.
Ça, c'est comme un livre, il n'y a pas de feuille.
Il y a une seule page.
Oui, c'est pour aller sur l'Internet. Alors hier, j'ai réussi à aller sur le shop.ch. J'ai fait une commande, mais ils ne pourront pas me livrer avant mercredi prochain.
Et oui, bien sûr.
Alors en attendant, ma foi, je mangerai des knäckebrot avec de la margarine et puis du sénovès.
C'est vrai que les sites de commerce en ligne sont submergés de commandes et oui, c'est parfaitement juste. Et la troisième chose qui vous inquiète, madame?
C'est les jeunes.
Oui.
Et je ne dis pas ça parce que je suis une vieille conne. Hier soir encore, je regardais par la fenêtre et je voyais une bande d'ados devant la COP des Faverges. Qui chillaient. Il y en a qui se sont fait la bise, d'autres qui se sont fait des checks, vous savez, d'autres qui se serraient la main. Alors moi, j'ai ouvert la fenêtre et je leur ai dit, mais arrêtez, bon Dieu, arrêtez, vous contribuez à propager ce virus. Et là, il m'a dit, madame, mais on est en bonne santé, on est jeune, on s'en fout, on risque rien. Mais moi, ça m'a fendu le cœur. J'ai eu l'impression qu'il me faisait un bras d'honneur.
On rappelle et on insiste, s'abstenir de tout contact physique, y compris la bise et les poignées de main, même si on est jeune et en bonne santé, ça ne protège pas que soi-même, ça protège aussi et surtout les autres, en particulier les plus faibles.
Oui, c'est une question de solidarité. La vie de vos grands-parents ne vaut pas plus qu'un chèque. Le pire, c'est qu'on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer.
Sans doute plusieurs semaines. Oui.
En tout cas, j'espère que ce virus au nom de bière provoquera pas ma mise en bière pour que je puisse revoir à quoi ressemble la vraie vie avant de la perdre.
Bah, c'est ce qu'on souhaite tous, Madame Jean-Monod. On vous remercie d'être venue témoigner ce matin. Prenez soin de vous et bonne journée.
C'est gentil.
Pour 15 jours au moins, je vous demande de rester chez vous.
On se fait chier devant un Scrabble ou bien la PSP, à regarder Psychose à la télé. Je veux découvrir les nuages et la société. On se fait chier à re-regarder le dernier Rambo. J'en suis déjà à mon cinquième porno. Les enfants me rendent un peu barjo. Ils me manquent mon boulot. Oh, 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 oh.
D'organiser aussi les choses avec nos voisins.
Allez, c'est parti, les voisins, on y va comme un dit. Allez, c'est parti.
Nous sommes en guerre. En guerre sanitaire, certes. Nous ne luttons ni contre une armée, ni contre une autre nation. Mais l'ennemi est là.
Moi, je m'appelle Corona. En Chine ou chez toi, du pareil au même. Moi, je m'appelle Corona. Je viens sur tes mains, à part si tu mets du gel. C'est pas ma faute. Et quand tu tousses pas dans ton bras, je vais sur un autre. Si tu es confiné chez toi, c'est bien ma faute à moi. Si t'en font tout autour de toi, attention Corona, moi Corona.
Nous sommes en guerre. Et en mettant les distances d'au moins un mètre, en ne serrant pas la main, en embrassant pas.
Et le Corona, faut que tu t'enfermes chez toi. Ne me touche pas ou je t'éclate ta tête à toi. On est confiné mon gars. J'ai plus de weed, plus de tcha. J'ai même fumé la salade. En plus y'a la queue au drive.
Nous sommes en guerre. D'avoir moins de concitoyens infectés.
Je suis malade. Complètement malade.
l'Europe, le chinois qui a mangé du pangolin. Je répète les noix, je suis malade.
Nous sommes en guerre. Les frontières à l'entrée de l'Union européenne seront fermées.
On n'ira plus en Italie, Corona. Qu'on soit guéri, qu'on soit puni, t'ira pas.
Nous sommes en guerre. Cédez à aucune panique.
On ne bouge pas. Mais comme j'ai plus de pécu, je m'essuie avec les doigts. Je me change pas.
Nous sommes en guerre. Lisez, retrouvez aussi ce sens de l'essentiel.
Allumez la 2, voir aux infos et que ça va pas mieux.
Les écoles, les collèges, les lycées, les universités sont fermées depuis ce jour.
L'amnésique, tout est bloqué, il le sait pas.
Nul ne peut en prévoir précisément la durée.
Quarantaine, même pas de foot pour passer le temps. Quarantaine, en plus je belle maman.
Samedi soir, les restaurants, les bars, tous les commerces ont également clos leurs portes.
Y'a plus de frites, y'a plus de glaces, et puis y'a plus de menu best-of. Même le McDo, il est cramé, peu qui est fermé, va te tuer. Y'a même des restos du coup qui a mis la clé sous la table, parce qu'il n'avait plus de sous et plus le moral. Par contre, y'a des malbros, ça s'est ouvert mon poteau. Et je lui dis ça me fout les glandes. C'est pas nécessaire dans ce monde. Virus de merde, tu me fous les glandes. Casse-toi, tu pues, et meurs dans l'ombre.
Nous y arriverons en étant unis, solidaires. Le jour d'après, quand nous aurons gagné, ce ne sera pas un retour au jour d'avant. Nous serons plus forts moralement. Nous aurons appris.
Je m'en fous d'être contaminé. Sûrement, des gens vont y rester. Moi, je mange des pâtes à la crème. 20 kilos, j'en ai acheté. Le virus s'attaquera pas à moi. Je resterai cloîtré dans mon chez-moi. Une pensée si t'as de la peine, faut rester en cas.
Ils sont nous, individuellement et collectivement, à la hauteur du moment.
Ah, là, t'as été top. Moi, j'étais bien.
Oui.
Alors maintenant, tu vas penser au personnel hospitalier, aux gens qui mettent en rayon en grande surface, aux hôtesses de caisse et aux indépendants. D'accord?
Oui.
Très bien.
Et on applaudit Gabriel Marigny pour son arrangement. D'ailleurs, Gabi, qui est chez lui, et tu as une chanson.
Devant ma véranda, dehors il fait très beau. Je joue avec le chat, je tire sur les oiseaux. Je me gave de pizza, j'arrête de boire.